Bonsoir, bonsoir, c'est reparti pour l'entrepode numéro 1, avec ce soir autour de la table, Christophe.
Bonjour.
Didouille.
Salut.
Lulu.
Bonjour.
Freddy.
Salut.
Marius.
Salut.
Starlette.
Ouais.
Et pour lancer le sommaire ce soir, c'est Nico, à la régie.
À la régie. Bonsoir.
Bonsoir.
Salut Nico. Salut.
Ça va? Salut, ça Nico. Va, tout ça? Alors donc, merci à Yous pour ce lancement. Donc bienvenue pour ce premier numéro de l'Entrepode. Alors quand je dis premier numéro, on a déjà eu un épisode pilote qui comptait pas vraiment. Mais au sommaire de ce numéro ce soir, nous allons faire un petit retour justement sur le pilote. Ensuite, on fera un petit tour d'actu. La rubrique culture aujourd'hui traitera de plusieurs sujets dont vous aurez la surprise tout à l'heure. Freddy nous proposera un petit quiz. Sympa. Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et enfin, pour terminer, un petit instant culture G pour s'endormir un peu moins bête. Donc on est parti pour environ 1h30 de folie avec l'équipe de l'Entrepode et c'est numéro 1.
DJ.
Et oui, un petit retour sur l'épisode précédent. Donc, pour mémoire, l'Entrepode, c'est un podcast entre potes dont le but est de réunir des amis pour parler un peu de tout et de rien, de tout ce qui nous intéresse à droite, à gauche. Et puis, au lieu d'en parler juste autour d'une table comme ça, on a décidé de s'enregistrer pour faire partager nos découvertes. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de mensuel. On va voir si on y arrive. Hein. Déjà, pour arriver à se lancer,
possible.
C'est compliqué.
Si on ne s'est pas fâché avant. Si...
ça commence mal. On a déjà enregistré un épisode pilote. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier un peu ceux qui nous ont fait part de leurs commentaires. Donc, que ce soit donc, Barberousse, Bouli, Arnaud Doucet, Kikrine, Péremptoire ou encore tous ceux qui nous ont fait un petit retour de vive voix. On a essayé de prendre en compte un petit peu toutes les remarques et tous les commentaires.
Il y a du taf, ouais.
Il y avait du taf, effectivement. Donc on espère, déjà... on espère déjà que le son des micros sera meilleur cette fois-ci. On a passé un peu de temps à les régler, donc normalement ça devrait le faire. Et puis voilà, maintenant je dirais que...
Agrémenté de quelques jingles.
Et j'allais y venir. Je tenais à remercier Christophe. Merci, pour l'habillage sonore.
C'était juste lancer une grosse perche. Énorme.
Et d'ailleurs, je comptais le faire à la fin dans les remerciements, mais il me coupe l'herbe sous le pied. Donc, il y a également, Christophe a aussi travaillé sur le logo, puisque c'est lui qui est le concepteur de notre logo, qui a fait également l'habillage sonore. Donc, voilà. En fait, c'est l'habilleur de l'Entrepode, finalement.
La comptabilité, voilà. Et le ménage, aussi, et qui repasse nos fringues.
Christophe, d'ailleurs, il faudrait que je lui en cause, parce qu'il y a, ouais, y a deux, trois petites chemises, j'ai pas trouvé. Mais bon.
Les plis, ça, c'est un problème, les plis.
Ah, j'ai jamais réussi.
Les plis.
Une fois ce préambule effectué, c'est le moment de partir sur la rubrique actu.
La rubrique actu.
Salut la compagnie, ça va ?
Ça, c'est du lancer de jingle.
Les faire, c'est bien, mais les lancer, c'est bien.
Je sens que ça taquine déjà. La première à intervenir, c'est Starlette qui va nous parler de...
La Vétitech. Donc la première Vétitech de France a ouvert ses portes ce mois-ci. Elle a ouvert ses portes à Toulouse. Donc c'est le même concept qu'une bibliothèque où on peut emprunter des livres. Là, on peut emprunter des vêtements.
Génial.
Ah ouais, carrément.
Et je trouve que c'est carrément chouette comme idée.
Des slips aussi ?
Je ne sais pas si tu peux emprunter des slips. Et
J'emprunterai pas un slip.
Non, mais des fois, en cas d'urgence, ça peut servir.
Prenez le slip là-bas, elle tient debout.
Donc, ça peut dépanner si on veut changer de style souvent ou si on a des fins de mois un peu difficiles. On peut s'habiller quand même à moindre coût.
Un costard pour un mariage, par exemple.
Par exemple, c'est possible.
Et moi, je trouve ça.
Mais quelle est la différence à style ?
Il n'y a pas que des vêtements, en fait. Tu peux trouver aussi des accessoires, des bijoux, des sacs à main. Voilà.
Bah, et un exemple, si tu as une soirée, oui. Où tu dois t'habiller parce que tu as ta copine qui organise un anniversaire à thème, le coût d'un vêtement juste pour un anniversaire revient très cher, alors que si tu sais que tu as une vétitech dans le coin, tu vas chercher ce dont tu as besoin pour pas grand-chose et tu t'es fait plaisir pour la soirée.
Voilà.
Et justement, tu parlais par rapport à une location, quel est l'intérêt ? Justement, il y a pas de, tu prends une carte d'abonnement.
Alors,
tu n'as pas de location au coup par coup.
Tu as deux abonnements. Il y a deux abonnements. Le premier, c'est 30 euros par mois. Il donne accès à une partie du stock. Et l'autre, c'est 50 euros. Ça permet d'emprunter tous les vêtements que tu veux.
Et tu crois qu'à Agde, le concept est viable ?
Je ne pense pas, non.
Ils font différentes tailles de feuilles de vigne. C'est vraiment pour les soirées habillées. Hein. Un truc de fou.
Donc, voilà. J'espère que c'est un concept qui va se généraliser sur l'ensemble du territoire français.
Ouais, parce que Toulouse, c'est un peu loin quand même. Mm.
Mais ce sont des vêtements de couturiers, de...
T'as de tout, en fait. T'as de la Pamarque et t'as de la marque.
De la Pamarque.
Okay. C'est, voilà. C'est un site internet, c'est une boutique, comment ça,
c'est une boutique. Une boutique. Après, je ne sais pas s'ils ont un site. Il faut se renseigner. Moi, j'ai trouvé l'information sur le site de Cosmopolitan. Donc, peut-être qu'ils ont d'autres informations. Moi, j'ai trouvé ça. Pour l'instant, c'est juste une boutique.
Oui, mais c'est vachement intéressant. Moi, je suis pour.
Exactement.
Mais ça aurait été.
Mais ils justifiaient leur concept comment ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a justifié le lancement de la petite.
C'est d'intellectualiser là. Je suis pas obligé, tu sais.
Non, mais je vois le regard en perdition de Starlet. Donc...
Pourquoi tu poses des questions comme ça pour qu'on a compris ?
Déjà, pourquoi tu poses des questions ?
Mais ça m'intéresse. Je me demandais.
Non, parce qu'il y a un moment quand c'est trop sérieux.
Mais non, mais on a pris l'habitude d'emprunter des choses. Oui. Les bouquins, les CD, etc. Pourquoi pas des vêtements ?
Moi, je suis d'accord. D'autant que, vu la conjoncture actuelle, absolument. Les gens cherchent de plus en plus à emprunter plutôt que d'investir, parce que le coût est important. C'est et vrai. Que pour une famille qui a envie de s'amuser et profiter d'une occasion, ben, ça permet de...
Ça peut être aussi un moyen d'essayer un petit peu avant d'acheter. Parce que combien... Didouille.
Dis-moi, Starlet.
Combien de fringues t'as acheté sans les porter une seule fois ?
Enfin, dis-nous, il a téléchargé illégalement les fringues.
Moi, je suis une geek de la fringue, alors forcément, je peux pas.
Il y en a forcément que tu n'as jamais porté.
Exact. Mais parce qu'entre-temps, j'ai peut-être pris 3 kilos, après, j'en ai perdu.
Mais non, c'est vrai. Ça qui est bien. Tu vois, tu prends du poids, tu vas vétitéquer, quêter.
Voilà, exact. C'est pour ça que je suis pour. Après tout, il y a des ludothèques, des bibliothèques.
Ils ont rien à voir avec Loulou, d'ailleurs.
Des œnothèques aussi.
Les œnothèques.
Oui, tu peux aller goûter des vins et.
Emprunter une zone.
Ceci dit, vérifiez quand même, je suis pas sûre, mais en fait, je suis pour le concept de l'œnothèque.
Alors, par contre, avec la recrudescence de la gale, c'est vrai que ce système est énorme pour faire partager des petites bêtes à tout le monde.
Il faut les rendre lavées, j'imagine.
Est-ce qu'il y a un système de.
De toute façon, tu as deux types de gale. Après,
ça va non plus.
Gale qui est spécialement contagieuse.
Non, mais je pense que justement, c'est comme les bouquins. Je veux dire, les bouquins, tu as un engagement pour rendre les vêtements propres. Et
tu n'en parles pas avec
Mais il faut qu'ils soient rendus corrects, sinon tu dois payer quelque chose.
La gale ne lit pas.
C'est pas faux.
Bref, je pense pas que la gale nous écoute de toute façon. Donc
le pays de Galles à la limite.
Elle ne lit pas.
Est-ce qu'on trouve des vêtements dans toutes les tailles ?
Oui.
Parce que ça, c'est important.
Mais pas tous les vêtements ne sont pas dans toutes les tailles.
Ah, ça, c'est dommage.
Mais il y a toutes les tailles.
Des chaussures, en fait, c'est rangé par taille.
Des chaussures, des accessoires, etc. Donc, des bijoux.
Si tu veux essayer un style mais que tu n'as pas les moyens, tu peux essayer des styles différents.
Et voilà, pour te donner des idées.
Ça veut dire que Lulu, il a tout compris.
Ça veut dire qu'en fait, il aimerait trop avoir une vétitech à Rouen.
C'est
quoi.
Génial.
Ouais, ce serait bien.
Ouais, maintenant, j'aime c'est pas, il y a la gale.
Bon, je pense qu'on avait compris que Marius n'était pas hyper un fervent défenseur de cette.
En fait, je crois
qu'il
est juste pas défenseur de la gale.
Mais
en fait.
Moi, personnellement, par contre, je trouve ça vachement bien.
Moi, je trouve ça génial aussi.
Je suis pas pour la propriété à tout prix, pour exactement. Effectivement des trucs que tu mets trois fois. C'est comme toutes les choses en partage, les voitures, les machins. Ça sert à rien.
D'autant
que
nous, on avait une friperie avant sur Rouen qui n'existe plus. Et Dieu sait qu'on trouvait souvent plein de choses. Et là, pour le coup, t'avais vraiment problème avec la gale, je pense. Mais elle n'existe plus, cette friperie.
C'était rue des bons enfants.
Oui, ça s'appelait Kilo Shop. C'était super. On pouvait trouver des trucs sans sas pour se déguiser ou autre. Ce principe-là, au contraire, ça devrait être généralisé.
C'est vrai que c'est très local comme info, mais tu as une friperie qui est au Ulm et qui est ouverte une fois par mois, où tu trouves effectivement encore plus qu'à Kilo Shop des vêtements, des années.
Merci pour l'info, Freddy, parce que pour le coup, du coup...
Pour nos amis rouennais,
Voilà.
Ou banlieusard.
Si vous voulez une info fringue, vous me demandez. Hein,
voilà, maintenant Freddy, ça va être ça.
On sent que t'es un dingue de la fringue. Voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Eh ben, écoute, merci Starlet pour cette information, ma foi, très intéressante.
Donc, voilà. Si vous souhaitez la gale.
De toute façon, généralement, ce n'est pas pour les Italiens. Sinon, t'es. En fait, sinon ce serait des vêtements gallo-romains.
Depuis tout à l'heure, je me dis, il va nous sortir la moitié de maladie, la migale.
J'ai déjà connu. Ah voilà. Ah j'ai connu. Ouais, voilà. Ok. Bon.
Et non, il a fait pire. Bon, bref.
Il a fait pire. Exactement.
Okay, c'est bon, ça, madame.
Voilà, voilà.
Ok, bah, merci. Merci Delphine.
Merci Didouille.
Et merci Didouille.
Juste, j'étais d'accord, mais j'ai pas lancé de sujet encore.
Donc. Le sujet suivant donc, concerne l'édition 2013 de Rank en scène, où avec Ludo nous allons nous rendre prochainement, puisque la semaine prochaine, et Didouille également, donc le samedi 24. Pour ma part, c'est pour aller voir Nine Inch Nails, groupe
pour notre part aussi.
Que je n'ai
pour
jamais vu
aussi.
Vous aussi. Mais après, rien ne.
Il y a
je ne suis pas rebuté par les autres groupes, hein, dont je ne connais pas
80%. Le problème, c'est que si Thomas Hawke avait été passé le même jour que Nine Inch Nails, là, pour le coup, il y aurait eu deux concerts intéressants pour nous.
Parce que Thomas Hawke, il passe ce.
Et oui.
Je ne savais pas.
Eh bien, voilà. Ouais, l'information est donnée.
Vous y allez quel jour?
Samedi. Samedi. Parce que tu y vas, Freddy?
Non, je suis déjà allé par le passé.
Mais pas cette fois-ci.
Pas ce samedi.
Donc pourquoi cette question?
Par curiosité.
Pour s'il y a des gens qui veulent venir nous rencontrer en chair et en os, c'est voilà. Ça.
Je crois que Thomas Hawke, c'est le vendredi.
Mais ça aurait été bien. Alors donc,
annonce sa programmation un peu.
Il y a Hills dimanche.
Oui, mais le dimanche est plein d'ailleurs. Il est déjà blindé. C'est ça. Donc le samedi, on va voir par exemple, il y aura Phoenix qui passera, Nine Inch Nails. Black Rebel Motorcycle Club, wow. Ce qui peut être sympa. Je n'ai jamais vu sur scène, mais ça peut être assez sympathique. Et pour le reste, oui, il y a Patrice. Bon, que j'écoutais il y a quelques années. Patrice, ouais. Un peu style un peu reggae,
ouais.
Etc.
Je ne suis pas très branché par Patrice.
Plutôt pas mal. Et le reste, par contre, il n'y a rien qui me parle du tout. J'ai déjà entendu parler de Fauve. Je ne sais pas trop ce
que
c'est.
Moi, par la danseuse de danse avec
Fauve, c'est un petit groupe parisien. Qui cartonne pas mal.
Ouais, ça a l'air d'être un peu spécial.
On accroche pas.
Ouais, je pense que c'est ça. Les autres groupes, tu veux la liste exhaustive de tout ce qu'il y a?
Principaux.
Donc nous allons avoir Hola a Todo del Mundo, La Femme, Patrice, Vitalik Vdlzrs, je sais pas comment ça se prononce, Eugène McGuinness, il a un nom sympa déjà, donc Black Rebel Motorcycle Club, Nine Inch Nails, Phoenix, In the Valley Below, Laura Mvula, Waves, Valérie June, Fauve, Fishes, JC Satan, Kid Noise, Jackson and his Computer Band et Fritz Kalkbrenner. Voilà.
Beau programme.
Donc on va certainement découvrir des choses, hein, parce que je ne connais pas grand-chose. Donc voilà, en tout cas, nous y rendons la semaine prochaine. Samedi prochain, donc pour passer, j'espère, un bon moment. Mais de toute façon, Nine Inch Nails, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de se rendre à Rock en Seine.
C'est un bon week-end saucisses frites défoncées.
Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Pas que saucisses frites, il y a des stands pour toutes sortes de bouffe.
Il y a des steaks hachés aussi,
chinois,
crois,
et tout ça.
Nico, on peut dire que c'est le plus gros festival parisien, Rock en Seine?
Oui, Freddy. Alors, je ne pense pas que ça rivalise avec les Solidaises en termes de.
En termes
d'audience. Par contre, l'avantage que ça a, Rock en Seine, ce qui explique peut-être son prix, par contre, c'est que c'est vraiment une prog originale. Mmh. C'est-à-dire que globalement, autant les festivals, tu vas voir les Vieilles Charrues, Solidaise, Rock dans tous ses états, bon, tu vas voir à peu chose près les mêmes groupes, les Francofolies, etc., même les Euroc, tout ça, tu as un peu la même programmation. Rock en Seine, c'est plus cher. Par contre, tu as vraiment des groupes que tu ne vois pas. J'ai vu Rage Against the Machine, Face No More, et là encore Nine Inch Nails, qui ne vont pas forcément faire tout le tour des autres festivals. Voilà.
Alors moi, je vais faire un peu le rabat-joie, mais je suis allé plusieurs fois en scène il y a quelques années, et j'ai décidé de ne plus y aller, quelle que soit la prog.
Alors allons-y. Allons-y, lançons le débat. Alors, je t'écoute.
Tu l'as dit, la première chose, c'est le prix. Je trouve que c'est devenu un luxe, vraiment.
Je suis assez d'accord.
De prendre les 3 jours, c'est une vraie dépense. Et puis, j'ai des mauvais souvenirs d'organisation aussi. Alors, sûrement que ça a évolué et que c'est très bien maintenant. Mais je me souviens avoir vu Archive, par exemple.
Quelle année tu y allais?
Je crois que c'est 2006, 2007. Peut-être 2006, ouais. Et 2007. J'ai vu Archive et le concert n'était pas fini, que Muse débutait sur l'autre scène, je crois. Alors on avait des mouvements de foule assez importants. Alors je pense que tout ça, ça a été corrigé depuis. Hein. Mais ce sont des choses qui m'ont marqué. Et voilà. Puis il y a un esprit aussi qui me gêne, mais qui ne me correspond pas trop. Et je préfère à la limite les festivals un petit peu extérieurs, de campagne.
C'est un côté un peu bobo. Hein,
on peut dire ça.
Pour le dire gentiment.
Ça veut dire que je suis bobo, c'est terrible.
Bah écoute, non.
Parce que moi, mon premier, c'était pour découvrir, enfin pas découvrir, parce qu'on le connaissait bien, hein, Faith No More, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'aller les voir en concert. Après Offspring, qu'on a profité d'ailleurs de ce petit moment pour déjeuner. Hein.
Après, un peu la plaie quand même.
C'est ça, exactement. Donc nous, ça nous a pas dérangé d'entendre des scènes parasites entre guillemets, parce qu'il y avait plusieurs concerts en même temps. Mais quand Faith No More est arrivé, alors là, c'était là, chapeau bas les mecs. C'était franchement, là vous parlez sur le forfait 3 jours, mais une journée c'est 46 euros, 44. On
oui,
est voilà. Franchement, moi ça m'a permis de découvrir Ebony Bones, que je ne connaissais pas.
Ah oui, c'était sympa, ouais.
Ça m'a permis aussi de voir Faith No More, qui n'avait pas fait de concert depuis 10 ans. Mmh. Et franchement, 46 euros, pour moi, c'est pas cher. Quoi.
Et puis en repartant, il y avait Birdie Nam Nam aussi, qui faisait son électro.
Voilà, exactement. Birdie, exact.
C'est ouais, 49 euros pour être précis.
Voilà, 49. Ouais. Alors, enfin, ça reste pas cher.
Je relativiserai, ouais, Freddy, ça, je suis assez d'accord, mais quand tu vois le prix dans des grandes salles maintenant, des concerts, on est allé voir Rammstein à Bercy l'année dernière, 64 euros.
Bon, oh, ça l'est mérité parce que là,
c'est super cher. Non, mais
non, enfin là, t'avais le show de pyrotechnique et tout. Là, pour le coup, Rammstein, c'était. Okay.
Tu prends System of a Down à Paris-Bercy, c'était 49 euros la place. Le show pyrotechnique, il était.
Ouais,
il était...
Va, hein. Moi qui suis un fan de Zappa, Dweezil Zappa à chaque fois, c'est du 70-80
voilà,
euros la place.
Quoi. Aujourd'hui, la place des concerts a vachement augmenté.
Mais effectivement, par rapport aux autres festivals, c'est quand même un cran au-dessus. Hein.
Et puis on comprend le prix aussi qui augmente parce que les artistes prennent un cachet plus important, exactement. Parce qu'ils gagnent moins d'argent sur les ventes de disques.
Voilà. Bon, exactement.
C'est une logique aussi qu'on ne peut pas nier. Quoi.
En tout cas, juste sur les problèmes d'organisation, moi, les deux dernières années où j'y suis allé, j'ai pas eu du tout les problèmes, j'ai pas connu les problèmes effectivement de mouvement de foule, etc. Donc,
que par contre, j'ai pu connaître au Solidez la dernière année où on y est allé, où de toute façon, rien que matériellement, entre un début de concert, enfin une fin de concert et un autre, le temps que tu traverses l'ensemble du festival avec la foule qu'il y a, tu rates la moitié du concert. Donc ça, qui existe aussi dans d'autres systèmes, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que on fera peut-être un petit retour lors du prochain épisode sur ce qu'on a pu apprécier de ou pas d'ailleurs de cette prestation de la semaine prochaine.
Oui, parce que vous l'avez bien cassé le festival, d'accord.
Pas du tout.
Ah, pas du tout,
pas
au
du
contraire.
Tout, c'est juste moi.
À part un triste cire, un esprit
c'est
chagrin.
C'est juste Monsieur
non,
Freddy.
Non,
hein,
Freddy a lancé les bonnes questions. On a donné
mais
juste
en même
les
temps,
bonnes réponses.
Voilà, c'est son ressenti. On peut trop rien dire là-dessus.
Mais j'ai aussi vu Radiohead les pieds dans la merde et c'était le bonheur qu'on voulait.
Ah oui, ça j'imagine. Radiohead les pieds dans la merde, ça doit être quelque chose. Non, sérieux. Non, mais Radiohead on l'écoute n'importe où.
Les pieds dans la boue.
Moi non. Mais bon, après chacun ses goûts.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé quand même Rock en scène, moi, que toute cette jeunesse, les seins tendus vers la scène, les tétons gorgés de sève. Bref,
ah, je me rappelle d'ailleurs.
Ça m'a ramené quand même 45 ans en arrière.
Je me rappelle d'une didouille qui va.
Non, mais je fais en sorte de pas rappeler ce
mais
petit
moi, je m'en
moment.
Bien. Didouille qui va à un festival avec du rock limite métal.
Ben
en sandalette et qui
non,
va dans la
fosse. Non, j'étais pas en sandalette, j'aurais préféré être en sandalette, j'étais en tong.
En tong et qui se dit à la fin, merde, j'ai mal aux pieds quand même, ils m'ont tous sauté dessus les cons.
Ouais, non. Non, alors là, je rectifie, vous m'aviez garanti de ne pas dépasser le staff technique, il fallait pas être trop près de la scène, on est allé, parce qu'il n'y avait pas de mouvement de foule justement, on est allé de plus en plus près. Allez, Didouille, on se rapproche. On s'est rapproché. Là où j'ai eu des craintes, c'est quand l'introduction du concert s'est faite avec un Mike Patton qui était avec sa canne et son groupe avec des costards de noces improbables, couleur pastel et une boutonnière. Et c'était d'un calme olympien le premier morceau. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe pour Faith No More ? Et au deuxième morceau, malheureusement, j'ai un peu pleuré ma mère, puisque effectivement, je me suis retrouvée éjectée devant grâce à un mouvement de foule qui n'était pas contrôlable et contrôlé. Heureusement, j'ai eu des forces masculines et vives qui sont venues me récupérer. Sinon, j'étais une vraie marionnette en plein milieu de la foule. C'est vrai. C'est et là, la tombe n'est pas pratique, penser, hein. Je vous l'accorde.
C'est un truc à penser. C'est vrai que tu pars comme ça, comme...
Un viol collectif, 675 personnes.
Bon, voilà, Marius va tout de suite dans l'extrême.
Ça a été violent, non mais clairement ça a été violent pour moi.
La gale, le viol, voilà. Et où s'arrêtera-t-il?
Marius, il a un côté apocalyptique, je trouve.
Ouais, mais c'est un artiste, un batteur.
C'est un artiste, voilà, c'est un batteur, c'est un bourrin, voilà, c'est comme ça.
Tout en noir.
Eh bien, sans vraiment de transition...
Un peu quand même.
Pourquoi s'embêter ?
Alors, pourquoi on va parler d'un sujet, qui est un peu plus, un peu moins joyeux d'ailleurs.
Tiens, puisque Marius.
Donc c'est Marius qui va intervenir. Non, on voulait parler un petit peu du retour un peu difficile qui se présente pour Bertrand Cantat, puisque normalement il est censé
le chanteur de Noir Désir.
Connu pour de sombres affaires.
Voilà. Pas que, mais...
Non, mais je veux dire, il est connu par l'ensemble de la population, mais... aussi autrement, oui. Malheureusement, que par son côté artistique. Et du coup, c'est vrai qu'on était on se posait un peu la question de la difficulté de son retour, puisque bah, il prévoit de revenir à l'automne avec un album, sachant qu'il a pas mal de difficultés à la fois pour revenir artistiquement. L'album a l'air d'accoucher dans la douleur. Et en plus, en termes de judiciaire, puisqu'il a d'autres nouveaux soucis qui viennent se greffer à son dossier, on va dire.
Eh ben, on peut se poser la question, parce que ça arrive dans un drôle de contexte. Il y a cet été un livre qui est sorti, qui s'appelle « L'amour à mort », qui a été écrit par deux journalistes du Parisien, Stéphane Boucher et Frédéric Vézard, qui ont la particularité d'avoir été, au moins pour l'un d'entre eux, sur place le premier à Vilnius lors du drame de 2003, donc tout le monde se souvient à peu près. Mm-hmm. Et alors le livre qui est sorti cet été, c'est un peu la suite de celui qu'ils avaient déjà écrit, qui reprend un élément nouveau, qui est le suicide de la femme de Cantat, qui s'appelle Christina Radi,
d'origine
hongroise. Oui, tout à fait. Qu'il avait rencontré d'ailleurs au Sziget Festival de Budapest en 93. Et on entend surtout en ce moment, l'actualité, c'est est-ce qu'on va relancer, est-ce qu'on va faire un nouveau procès, puisque le suicide de sa femme, on peut quand même lui imputer, certaines sources.
Oui, c'est ce qu'on entend.
C'est voilà, surtout qu'en fait, il y a des preuves audio. Avec un message téléphonique qui a été laissé sur un répondeur.
Sur le répondeur.
Où là, il y a vraiment un appel à l'aide de son ex-femme par rapport à
donc en tout cas pour dire ex-femme. Un drôle de contexte, est-ce qu'on peut imaginer sortir un album dans ce contexte-là, sachant que Noir Désir s'est splitté aussi pour cette raison-là, parce qu'il était incapable, Bertrand Cantat, d'écrire à nouveau, et surtout d'écrire sans allusion à l'histoire, puisqu'il y a la justice lui interdit de parler de ce qui s'est passé.
Et puis s'il en parle, ça peut paraître un petit peu indécent, d'une part pour la famille, ça peut quand même faut pas oublier quand même qu'il y a quand même eu un décès dans l'histoire.
Il y a aussi le problème de Marie Trintignant.
Il y a les différentes familles pour lesquelles il peut un petit peu paraître indécent d'évoquer ces sujets-là. Et puis on pourrait l'accuser effectivement d'exploiter le malheur des autres pour faire ça. En même temps, s'il en parle pas et qu'il en fait complètement abstraction, on va dire voilà, ça l'a pas marqué. C'est un homme sans sentiments, etc. Qui revient sur le devant de la scène pour se refaire de l'argent, quel que soit un petit peu toutes ces... Voilà, je te rejoins, le contexte est très compliqué, et même si artistiquement, c'est quelqu'un qui est... que je trouve assez brillant, même très brillant, en même temps, ça n'empêche pas que... Il n'y a pas que lui, mais on peut être un très grand artiste et être un gros con ou quelqu'un de pas respectable dans la vie, dans le privé, quoi.
Alors on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, apparaître sur scène avec Amadou et Mariam, avec Chaka Ponk, avec Eiffel. Mmh. Voilà, c'était ponctuel. Là, on peut se poser la question, un album solo, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Artistiquement, pourquoi pas, on peut attendre ça avec curiosité, avec impatience peut-être pour les fans. Moi, ça me semble difficile dans ce contexte-là.
Difficile, pourquoi? Parce qu'après, il a été en prison, Il a payé sa dette.
Oui, après, oui, après...
Non, par rapport à sa source d'inspiration.
Sauf qu'on a des éléments nouveaux là qui sont
sauf pour Christina, son ex-femme. Là, pour le coup, c'est une autre affaire après celle de Marie Trintignant.
C'est un psychopathe.
Rebondir là-dessus, c'est quand même.
Je pense que artistiquement, il est grillé, ce type-là, il est fini. Quoi.
Moi, je suis pas sûr
avis.
Parce
je pense
que
c'est terminé pour lui parce que le public va pas revenir vers lui.
Je suis pas d'accord.
Ou le public reviendra pas pour les bonnes raisons. Voilà.
Peut-être. Voilà. Il y a aussi ceux qui sont capables parce que Noir Désir, c'est quand même une sacrée génération de. De personnes et c'est aussi une... oui mais 15 ans c'est une empreinte je veux dire regarde moi, t'as pas oublié tes premiers émois sur des musiques surtout que t'as écoutées quand t'étais ado et moi je suis désolée quand j'écoute le morceau avec Chaka Ponk parce que j'adore Chaka Ponk en plus il y a Bertrand Cantat qui intervient sur un titre je trouve ce titre super après on peut le trouver nul on s'en fout j'aime beaucoup ce qu'il a fait aussi avec Eiffel mais Eiffel ils ont toujours été Eiffel de toute façon c'est les petits
c'est les copains bordelais,
voilà c'est en fait. les petits bébés de Cantat de toute façon on écoute Eiffel on a l'impression d'écouter du Noir Désir hein. La touche on sent bien qu'elle est bien marquée t'as les inconditionnels de Noir Désir et Bertrand Cantat reste quand même l'emblème enfin la figure emblématique d'un groupe et pourquoi pas aller l'écouter en faisant totale abstraction de ce qui est arrivé. Est-ce
je suis
qu'à
moitié d'accord. Je vais te donner, moi, quand j'ai pensé à cette histoire-là, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir. C'est un sujet polémique aussi, c'est Dieudonné. C'est quelqu'un qui humoristiquement m'a fait beaucoup rire.
Mesdames, messieurs, cette émission va durer 3 heures.
Par contre, c'est un mec qui devient vraiment infréquentable. À titre perso, je trouve que c'est un mec qui devient complètement frappadingue, qui fait surenchère sur surenchère. Et du coup, rien que pour ça, je trouve que j'ai même pas envie de cautionner ses spectacles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que j'ai pas envie d'aider une personne que je considère comme néfaste. Alors que j'ai pourtant, vous savez tous autour de la table, je pense que j'en ai saoulé pas mal avec Dieudonné à une époque, parce qu'il me faisait vraiment rire. Maintenant, je trouve que c'est quelqu'un qui a des idées... La provoque, ça a une limite, je pense. Et voilà, c'est pareil. Je trouve que Cantat, c'est un petit peu le même sujet. Je trouve qu'artiste, l'artiste ne cautionne pas tout. Voilà.
Pardon, excuse-moi, Freddy. Juste,
oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai lu le livre L'amour à mort, qui reprend. Alors, c'est plutôt une étude un peu technique du procès, une phase judiciaire qui est étudiée là. Mais il y a aussi un portrait de Cantat qui est dressé. Et qui le présente comme un homme qui est complètement déconnecté de son monde, quoi. Qui ne se rend pas compte de ce que va renvoyer l'image d'une réapparition publique.
Ah oui, d'accord.
D'être seul sur scène.
Qu'en plus, avant, il était comme un groupe. Il a toujours été comme un groupe. Quand tu dis qu'il veut redémarrer en solo, un album solo, il s'est accompagné de musiciens ou c'est lui qui a tout...
Alors, il faut savoir que c'est pas lui qui écrivait la musique de Noir Désir.
Tout à fait. C'est pour ça que
Serge Sauguet qui faisait tout de A à Z.
C'était quand même... C'est ma seule crainte, c'est-à-dire au niveau artistique, c'est bon, certes, tes textes, mais
derrière,
c'est...
Il est bien parti, lui, d'ailleurs.
Quid de la musique.
Il avait sorti deux titres il n'y a pas longtemps, Le temps des cerises ou je ne sais pas trop quoi, qui était plutôt moyen.
Moi, je ne suis pas sûr qu'il a retrouvé ses aptitudes à écrire quelque chose de fort, de poignant, de trucs qui prend aux tripes.
Il y avait un ensemble de... C'était un amalgame, je pense. Et justement, j'ai un peu peur que il y a quelque chose qui soit cassé et que... Bon, voilà. Moi, personnellement, j'attends plus rien de cette personne et je préfère rester sur l'histoire de ce qu'il a pu faire et rester sur l'artiste des années 90.
Je pense qu'il va se planter son album solo.
Ouais,
il va artistiquement pas marcher.
Je pense aussi.
C'est pas forcément son côté artistique, c'est l'accueil.
Voilà.
Moi, je pense que c'est pas tant le public qui va le casser. C'est qu'on va attendre l'occasion qu'il soit sorti et on va en faire un produit médiatisé. Pour justement, il se casse la gueule.
Je sais pas.
Je crois qu'il n'aura pas besoin de ça.
Je sais pas. Bon, de toute façon,
wait and see.
On verra bien. Mais
l'album sort quand ?
Il est prévu pour novembre, mais visiblement, il est. Enfin, voilà, c'est la théorie, quoi, parce que ça a l'air d'être compliqué.
D'accord. Mais c'est compliqué pourquoi ? Parce qu'en fait.
Artistiquement, déjà, c'est compliqué. Et en plus, il y a des affaires juridiques qui viennent se greffer à tout ça, qui ne simplifient pas. Attendez, hop, c'est le moment. C'est le trinquage.
Pardon, on trinque.
Donc oui, l'album
est bouclé en fait.
Non mais il va le sortir pour Noël en fait.
Je crois pas qu'il soit fini.
Il va le décaler.
D'accord.
Lulu, un petit peu d'eau.
S'il vous plaît, moi, j'ai un homme sain dans un corps sain, c'est important.
Corpo sano.
Donc, voilà ce qu'on voulait évoquer à propos de Bertrand Cantat. Donc voilà, ça n'apporte pas forcément beaucoup de...
affaires à suivre.
Beaucoup d'informations, mais c'était plus une réflexion qu'on avait notamment avec Freddy à ce sujet, puisque ben voilà, le calendrier actuellement paraît compliqué.
En tout cas, on peut conseiller la lecture du livre L'amour à mort, qui est vraiment...
En tout cas, toi, tu le conseilles. Voilà.
Ouais, parce qu'on peut se faire une idée. C'est repris, il n'y a pas de parti pris, je veux dire. On reprend les procès-verbaux, les témoignages de chacun, et on comprend un peu mieux le déroulement de toute cette histoire, de 2003 jusqu'à aujourd'hui.
Mais on comprend aussi le chagrin des familles. Hein.
Ah oui,
la discussion ne remet pas en cause du tout, même si je parais...
Mais on comprend ton côté fangirl, il n'y a pas de souci.
C'est ça.
Il
n'y
a pas de souci. Eh bien, nous allons passer maintenant à la rubrique culture.
Donc la rubrique actu. Donc moi ce serait Claire Diterzy pour son album Le Salon des Refusés.
Vas-y, tu veux que je lance quelque chose?
Un petit peu quelque chose, ouais.
Oui, pour qu'on écoute un peu, pour nous donner envie.
Parce que Claire Diterzy, c'est quand même une voix, une très belle voix qui monte, qui descend et qui vous emmène dans un mélange assez original. C'est des instrumentations qui font penser à de la musique lyrique, ancien, très classique. Bon, après, c'est pas un album facile à la première écoute, en fait, surtout si on n'est pas habitué à ce genre de musique. Mais une fois passé le cap, on est happé par ce mélange de voix bulgare, de viol de gang.
Un viol de gang, c'est ce qu'on appelle.
C'est du gang bang.
Un lapsus.
Un viol de gang.
Une viol de gambe.
De gange.
De gange. Ah, je connais pas. Alors autant la viol de gambe, je connaissais, mais la viol de gange.
De gambe, ouais, je pense.
Viol de gambe, ouais.
Ça vient d'Inde, c'est pour ça.
Non,
la viol du gange.
C'est un très vieil instrument.
Oui, la viol de gambe.
Voilà.
Voilà, parce qu'à l'époque. C'était le premier instrument à cordes qu'on plaçait entre les jambes. Et on disait exactement. Jambes, en vieux François, on disait la gambe. D'où le nom viol de gambe.
Dont Alexandre Astier joue dans son spectacle...
Que ma joie demeure.
Que ma joie demeure.
Exactement.
Si vous voulez en voir une. Voilà.
Une gambe ou une viol?
Donc non, c'est un mélange assez sympa en fait avec la voix de Claire Diterzy. C'est vrai que c'est assez original. Donc on écoute un petit, on écoute deux trois titres là qui me parlent moi énormément. On retrouve un petit côté Kate Bush dans sa
carrément,
façon de chanter.
Je pensais.
Des montées, des descentes, ça se rapproche un petit poil quoi.
Un poil du viol de gambe.
Alors la petite histoire donc c'est que
du poil aux gambes.
C'est que cet album il a été écrit à la Villa de Médicis, donc dans un recueillement qui est total, et il en est sorti du coup un album règlement de compte, parce que c'est un contexte assez assez fort, et je pense qu'elle avait un paquet de choses sur le cœur et elle l'a sorti vraiment très fortement. Donc,
elle a sorti plusieurs albums avant, parce que je connaissais.
Oui, elle a sorti un paquet d'albums avant.
Ouais. Notamment Tableau de chasse, qui est son précédent, si je ne me trompe pas, était vraiment une découverte incroyable. Hein. Je ne sais pas, j'ai pas encore écouté celui-là, mais alors Tableau de chasse, c'était sans envoyer.
Mais quel niveau, c'est quoi, niveau musique surtout, les textes
c'était
vocal, ça a l'air impressionnant aussi.
Sur scène, c'était une mise en scène incroyable et musicalement,
j'en avais entendu parler.
Trompette dehors, c'était très très fort.
C'est toi qui avais dû m'en parler, je pense. Ça me dit quelque chose, j'avais entendu parler.
Ça s'appelait Tableau de chasse. Et c'était vraiment un tableau de chasse sur scène avec des musiques qui rappelaient la chasse à cour. C'était un vrai spectacle.
Les jaquettes sont très travaillées. C'est vrai que Tableau de chasse, on a une jaquette qui est assez originale. Et donc sur cet album, là, on a une superbe reprise de Riders on the Storm des Doors, qui est très originale, très 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 originale. Donc là, on est sur
Entre ses mains.
Ouais, entre ses mains.
Tous ces textes sont en français ?
Ouais, tous les textes sont en français, ouais.
Et... Sauf Riders on the Storm.
Évidemment.
Merci Didouille. Mais en fait, Riders on the Storm, c'est un texte qui est assez fort aussi. Donc ça, ça reste dans le contexte de l'album, quoi. C'est un album assez, assez puissant, très très puissant à l'oreille, un peu comme un bon vin.
Qui est puissant bien à l'oreille, le bon vin. Ça, c'est connu quand même.
Effectivement, pour un coup que je travaille mon texte, tout le monde me saute dessus. C'est original. Non, non, c'est. Et là, c'est ce passage-là, moi, qui me parle énormément.
J'aime en tout cas, tu nous as donné envie d'écouter.
Oui,
tout à fait. Ouais.
En tout cas, moi, c'est un univers, bon, voilà, un univers qui me plaît bien, moi.
Donc oui. C'est très surprenant, c'est déroutant, mais c'est vraiment à écouter, à écouter, à écouter. Moi, j'ai la première écoute pour moi, elle a été
assez
difficile. Elle a été très difficile, mais dès que j'ai passé ce cap, en fait, je suis parti et l'album complet s'écoute d'un trait. C'est vraiment énorme, quoi.
C'est donc marrant, voilà, que c'était paru difficile la première écoute, parce que moi, j'écoute là en bruiton. Ouais. Et direct, j'accroche.
Moi, c'est pareil. J'allais dire aussi, moi, ce genre d'album, si je devais l'écouter, j'accrocherais direct.
Ouais, vraiment.
Alors, et là, effectivement, rare, en fond sonore, c'est très agréable.
Là, on a le morceau qui arrive, qui est, qui est un peu plus, bah, plus lent, en fait, pour des personnes qui n'écoutent pas ce genre de musique. C'est pas évident. Enfin, je pense, pour moi, hein, pour ma part, je pense que c'est pas évident, quoi.
C'est marrant, ça me fait un peu penser à Cécile Corbel. J'en avais parlé avec toi, Christophe,
qui a fait,
comment ça s'appelle, la bande originale de Arrietty, de Miyazaki. Oui. Ça a des petites consonances un petit peu comme ça, en fait. Des consonances un petit peu.
Moi, je trouve que ça fait très ménestrel.
Oui, voilà, c'est dire ça, un peu bretonnisante, un peu de temps en temps.
Elle le revendique elle-même, hein. C'est très.
Je suis pas sûr que ça se dise.
On dirait plutôt médiéval.
Oui, mais il y a un côté médiéval. Très,
mais
très
c'est
celtique, peut-être.
Bah, non, peut-être que c'est mieux, voilà.
Non, mais le roi, peut-être. Les Bretons,
hein, pas celtique. Enfin voilà, enfin, moi voilà, j'écoute ça. Je peux écouter ça en boucle.
Et l'album, tu nous rappelles le titre ?
Le Salon des Refusés.
Et qui est le nom de la chanson qu'on écoute actuellement.
Voilà. Et ES, quoi. Très important. Salon des refus.
Bah, moi, je demande à
EES.
Moi aussi, je prends volontiers.
Il est écoutez, sorti déjà l'album.
Oui, 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 il est sorti il y a 2 ou 3 mois, peut-être plus que ça même.
Alors, je mettrai les liens sur de Spotify sur le billet du podcast.
Donc, Claire, si tu m'entends, je te kiffe à mort.
C'est un message direct de Marius, voilà. Il va pas par 4 chemins. En tout cas, merci Marius pour cette découverte, parce que moi, en tout cas, je connaissais pas avant que tu me parles de ça.
Tous les morceaux sont très tristes ou il y a...
Tous les morceaux sont dans la même veine, ouais.
C'est la même veine.
Il faut être quand même patateur.
Ah, il faut avoir la patate pour écouter ça.
Ou alors on s'arrête à Chaka Ponk, quoi, ça c'est clair.
Ou Nine Inch Nails.
Ou Nine Inch Nails.
C'est pas reposant. Comme je disais.
Mais c'est un côté sympa. Enfin, je sais pas, c'est...
Je dirais pas sympa.
C'est un album, je pense que c'est un album où elle a beaucoup de choses à balancer et elle le fait remarquablement bien.
Et alors, Freddy, l'album d'avant, il était mélancolique comme ça aussi?
C'était plus pétardant, quoi. C'était, je dirais pas mélancolique.
Ouais, là, elle a eu un souci dans sa vie. Là,
non, là, comme je vous ai expliqué, c'est un album qui a été fait à la Villa de Médicis, quoi. Donc, c'est
une ambiance.
Total, voilà, une atmosphère, une ambiance.
À l'époque où Frédéric Mitterrand était encore le directeur,
tu penses que ça a un impact
ou pas? Je pense que ça a un rapport obligé.
Eh bien, on va écouter sa chanson Jeune enfant vient maintenant.
Enfin, moi j'adore.
Mais je.
Voilà.
Et bon.
Je te taquine, mais ça donne envie de vraiment d'écouter.
En tout cas, oui, merci pour cette découverte, Marius, parce que visiblement personne ne connaissait Claire Guiterzy autour de cette table. Ensuite, nous allons laisser la parole à Christophe, qui lui ne va pas nous parler d'un domaine musical.
On va changer de registre, on va sortir de la musique, on va entrer dans la littérature. Moi, j'avais envie de vous présenter un auteur cubain que j'ai découvert, qui s'appelle Leonardo Padura. Son titre, c'est « L'homme qui aimait les chiens ». Donc, ce n'est pas la dernière biographie
Michel Drucker,
de Michel
non,
Drucker.
C'est,
hein, c'est ce que j'avais dit. Je vous rassure.
Un petit clin d'œil.
C'est ni Gaufrette ni Michel Drucker. Gaufrette comprenne qui pourra. En fait, ça raconte l'un des assassinats politiques les plus célèbres du XXe siècle, c'est celui de Léon Trotsky, qui a été tué à coup de piolet dans la tête par un certain Ramon Mercader à Mexico en 40.
Ah, le salaud.
Et donc, en fait, au fil de son roman, on voit en fait toute la vie de Lev Davidovich Bronstein.
C'était son vrai nom.
Alias.
J'imagine bien.
Trotsky, c'est plus facile à dire quand même.
Et de son meurtrier. Donc, on voit deux histoires en parallèle qui vont se rejoindre, malheureusement. Et surtout, c'est que ce qui est intéressant, c'est que on voit au travers de ce roman toute la propagande soviétique, en fait, toute la machine de propagande soviétique qui se met en route. Pour resserrer l'étau en fait autour de Trotsky, parce que Staline veut absolument sa peau, quoi. Il est accusé de tous les maux, toute sa famille est victime d'intimidation, voire même d'assassinat, dont ses enfants. Et on voit aussi de l'autre côté, c'est la manipulation d'un homme, c'est celui de Ramon Mercader. Donc c'est un jeune espagnol engagé dans la guerre civile pour lutter contre les franquistes. Et lui, en fait, il change de chemise, c'est-à-dire qu'il est hyper influençable. Il est d'abord anarchiste, ensuite militant socialiste. Il se fait embrigader finalement par les communistes et il devient une espèce de soldat qui lutte, qui est destiné en fait à la mission de tueur. Et donc, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est même si donc le lecteur, lui, il est entraîné dans une histoire, même si on connaît la fin de cette histoire, puisqu'on sait que ça va se terminer par un meurtre, eh bien, on vit quand même tout ce qui est autour, tout ce qui s'est passé, trahison, mensonge, dénonciation, faux-semblant, etc. Et quant à l'homme qui aimait les chiens, qui donne son titre au roman, c'est silhouette mystérieuse qui promène ses lévriers russes, les Barzoï, les lévriers du tsar à l'époque déjà, sur les plages de la Havane. Et donc, en plus de ces deux histoires en parallèle, qui sont inspirés de faits réels, eh bien l'auteur il en profite aussi pour décrire un petit peu son pays et toute la misère qu'il peut y avoir à Cuba aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce roman et juste pour finir, je cite l'auteur qui dit que en fait il a écrit ce roman pour réfléchir à la perversion de la grande utopie du XXe siècle qui était le communisme. Voilà. C'est un gros pavé qui fait 1000 pages.
Ah ouais.
Il faut être patient. Je ne sais plus. Il faut être patient, mais c'est vraiment un roman passionnant parce qu'on y apprend un tas de choses sur cette période et sur la façon dont les événements se sont déroulés.
Communisme ou le soviétisme ?
C'est-à-dire ?
La perversion.
Ah, subtil. Je dirais les deux.
T'as qu'à lire le bouquin.
Bon, ouais, je crois que je vais lire le livre.
Donc voilà.
Et donc c'est un roman basé sur des faits réels.
C'est un roman basé sur des faits réels. Ouais.
Christophe, le style, t'as pas dit
Le style, je suis pas très très calé pour définir un style. On voit les deux histoires en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes trotskistes, il y a des paragraphes Ramon Mercader, et à chaque fois, on sent que les deux avancent chacun de leur côté, mais on sent qu'il y a un point qu'ils vont atteindre tous les deux, c'est leur rencontre qui va se finir par cet assassinat. Quoi. Donc on connaît la fin, mais malgré ça, on est happé par le livre parce que y a un tas de choses dedans qui sont assez terribles, notamment tout ce qui est lié à l'Empire soviétique, au communisme et à tout ce qu'a pu faire Staline, en fait. Pourtant, ils étaient potes au début. Et donc, il y a plein de petits faits comme ça de la Révolution russe qu'on retrouve en fait à travers ce bouquin.
Et on peut l'apprécier sans être féru d'histoire.
Absolument, absolument. Cas, par exemple. Moi, je suis pas du tout historien. Je suis tombé sur ce livre un peu par hasard. J'ai été attiré par l'auteur cubain et j'avais lu le pitch. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Je vais justement enrichir ma culture parce que moi, la Révolution russe, la propagande soviétique, etc. Je suis complètement inculte. Et donc, ça permet justement d'enrichir ses connaissances.
Et je suppose que c'est le genre de bouquin même qui te fait aimer l'histoire par les anecdotes.
Tout à fait.
Et qui te fait la retenir aussi par les petites anecdotes comme ça qui peuvent sembler bêtes. Mais
voilà.
Quelle est la part de fiction là-dedans? Alors, hormis le fait qu'on a effectivement des personnages...
La fiction, elle est, il n'y a pas de fiction, en fait. Il a juste mis en littérature un fait historique.
Il a mis en scène, quoi.
Il a mis en scène, quoi.
Oui, mais quels sont les pourcentages de faits réels dans ce qui est décrit et ce qui est propre au roman fictif
Oui, parce que quand tu romances, et puis tu disais qu'il avait une vision partisane, quand même.
Les faits historiques sont intacts.
Les faits historiques ne sont pas touchés.
Donc, après, si le reste est une fiction, mais qu'elle t'aide à intégrer le fait vraiment historique, je dirais que c'est pas important.
La seule fiction, c'est qu'il rencontre un type sur les plages de la Havane qui a des barzoï, donc des lévriers russes. J'en dévoile pas plus, mais c'est le seul élément du romancé, en fait, parce que ça, on n'en sait rien, quoi.
Moi, j'ai un berger yougoslave.
Un petit clin d'œil pour Cassie, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un film qui a été tourné là-dessus, c'était dans les années 70. Un gros nanar, pourtant avec une belle distribution. Alain Delon, Romy Schneider. Alain Delon dans le rôle de Ramon Mercader.
Les bons acteurs n'empêchent pas les nanars. Hein.
Et j'ai téléchargé ce film parce que, suite au bouquin, j'avais envie de voir.
Quoi ? T'as téléchargé ce film ?
Ouais, je l'ai téléchargé payamment.
Hein. Payamment.
C'est bon, madame.
Un nanar qui se vend payamment. Moi, j'ai des doutes.
Et en fait, le film retrace juste la fin du livre. Mais c'est quand même un gros nanar parce que c'est super mal joué. Mais il y a des magnifiques paysages de Mexico.
Il faudrait en parler à Nanarland, je pense.
Ouais.
Moi, ce qui me plaît déjà, c'est l'idée qu'en fait, l'assassin est d'origine espagnole et qu'il vit en pleine époque de guerre civile et on connaît tous ce petit moment historique de Franco et ce que ça a impliqué. Et comment on peut basculer comme ça pour...
Et on apprend aussi ce qu'ont fait les Russes. Comment les Russes sont plus ou moins intervenus dans la guerre civile d'Espagne. Mm-hmm. Des choses que je ne savais pas
du
tout.
Je l'ignore également.
Mais j'ignorais totalement
Le film de Ken Loach, c'est quoi ? C'est Le Vent se lève. Sur la guerre d'Espagne, qui est vachement bien aussi. Sur les gens qui s'engageaient un petit peu avec des mauvaises idées, des utopies. Et puis, une fois arrivés sur le terrain, revenaient un petit peu de leurs idéaux et se posaient un peu des questions sur le bien fondé du pourquoi et du comment. Cela étant, quand il fallait mettre Franco dehors, je ne pense pas que c'était une mauvaise idée à la base, mais c'était surtout les volontés des gens qui, eux, voulaient foutre Franco dehors à l'origine, en 36.
Oui, mais dans ce livre-là...
Je sais que c'est quelqu'un qui est très décrié pour des mauvaises raisons.
Quand même, il faut un peu arrêter. C'est un mec qui veut un peu d'ordre, quand même. Et voilà, qui a deux,
mais
trois
justement, on apprend
qui veulent foutre le bordel.
On apprend plein de choses sur la
Merci, Lulu, pour cette intervention.
Sur la guerre civile d'Espagne. On apprend plein de choses sur la guerre civile d'Espagne. Ouais. En fait, entre les anarchistes, les socialistes et les communistes, même entre eux, ils se pouillaient.
Surtout entre eux, j'imagine.
Bah ouais, mais c'est-à-dire qu'ils étaient normalement. Ils auraient dû être solidaires.
La cause était censée être la même, mais pourtant, au sein du.
Il y avait des divergences entre eux, ce qui a fait évidemment la joie de.
Des défauts que tu n'as pas avec la droite conservatrice, si je peux me permettre.
Effectivement.
Eux au moins sont organisés.
Effectivement.
Ils font même des télétons, tout ça. C'est...
Parce que je te fais remarquer quand même que Staline, t'es quand même quelqu'un qui acceptait assez peu la critique.
Assez peu, oui.
Je te trouve un peu méchant quand même. Mais bon.
Donc voilà.
Bah écoute, merci Christophe, parce que moi, en tout cas, ça m'a donné envie de le lire, franchement. Bon, 1000 pages, je te cache pas que...
Est-ce que tu as l'édition, non,
Tu l'as en quoi
Oui, l'éditeur.
C'est chez qui
Les éditions, c'est...
Édition cubaine, c'est marqué.
Métallier. Les éditions Le Métallier.
D'accord.
Écoute,
j'essaierai de trouver un lien aussi pour mettre dans le billet pour
collection
retrouver
Latitude.
Directement.
Collection Latitude.
C'est rigolo, c'est moins 300 pages, il faut 3 mois. Donc.
Leonardo Padura.
Leonardo Padura, l'homme qui aimait les chiens.
D'accord.
À ne pas confondre avec l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Exactement. Exactement, je pense que ce n'est pas tout à fait le même sujet. J'ai des vagues idées, mais je n'en suis pas persuadé. Écoute, on va laisser la parole à Lulu qui m'a l'air bien lancé là d'un coup. Là, je le sens revigoré en pleine forme comme s'il avait 20 ans d'un coup.
Le problème, c'est qu'il a en face de lui un iPad dont il ne sait pas servir.
Il est un peu comme son iPad, il est endormi.
Lulu, je te laisse la parole pour nous parler de tes. Puisque tu as deux sujets à nous présenter.
Écoute, je me rappelle bien du premier, mais moins du deuxième, si tu peux me le rappeler, ça m'arrangerait. Ah oui, tout à fait, oui, effectivement. Ça y est, merci, parce que j'ai des assistants personnels qui me permettent de me rappeler en temps réel
les défaillances de son cerveau, voilà.
Donc je vais moi un peu poursuivre sur la poésie, hein, la poésie de Marius, hein, tout à l'heure. Je trouve que c'était beau, c'était frais. Et je vais parler d'un film beau.
Et frais.
J'ai beau peur. Et frais à la fois. Un film qui est déjà ancien, qui a déjà quelques années, qui est sorti en 2009 et qui s'appelle White Lightning, qui est un film de Dominic Murphy, premier film d'un réalisateur britannique et qui a été primé dans plusieurs festivals, dont le festival du film britannique de Dinard, entre autres choses. Et ce film, oui, entre autres choses, puisqu'il a également été, parce que vous le savez,
non, mais c'est le film britannique de Dinard.
Dinard en France.
Mais également le festival de Mumbai. Et oui, c'est un aussi. Et alors, White Lightning, je l'ai vu il y a peu de temps. Donc, un
le
film
pitch,
qui alors, le pitch. Alors, juste, je précise quand même dedans, quand même, qui joue dedans. Il y a un type, un inconnu, c'est Edward Hogg, mais qui est un type qui crève l'écran, absolument. Et il y a également la princesse Leia, Carrie Fisher, qui joue un rôle qui est pour le moins surprenant, en fait, quand on connaît mes mères avec ses macarons sur les oreilles. Bref, le pitch. Le pitch, c'est l'histoire, c'est la biographie un petit peu aménagée, enfin on va dire un petit peu romancée, interprétée, déformée, d'un danseur de claquettes country qui s'appelle Jesco White et qui était donc spécialiste donc des claquettes.
De la double claquette de talon-talonnette.
De la claquette country dans les Appalaches. Alors ça a l'air comme ça un petit peu bidon, mon sujet, vous pouvez vous dire.
Quelle est la différence entre la claquette country et la claquette traditionnelle ?
Eh bien en fait, la claquette country se fait sur de la country, alors que la claquette traditionnelle se fait sur de la musique traditionnelle.
Et avec...
Et en fait,
non, c'est surtout que les mouvements de claquettes country se font sur des lignes, alors qu'une claquette traditionnelle ne se fait pas sur une ligne. Donc effectivement, tu respectes un carré quand tu fais de la claquette country, alors que quand tu fais de la claquette traditionnelle, tu ne respectes pas le carré.
Didouille, dis donc, tu me disais pas, tu savais.
Merci Didouille pour ce geste technique de la claquette.
Quand tu as commencé... Je suis absolument fan des comédies.
Quand tu as commencé.
Musicales, autant pour moi.
Quand tu as commencé à parler de ligne pour la claquette country, j'ai eu un doute, mais.
Alors. Dit comme ça, je vous dis juste que ce film est interdit moins de 16 ans. Alors on peut dire, tiens, pourquoi ?
C'est à cause des lignes, en fait.
Un film d'un danseur de claquettes est interdit au moins de 16 ans. Il n'y a pas de fesses.
Il n'y a pas de fesses.
Il y a vraiment très très peu, peut-être à la limite. Une raie. Peut-être une raie. Une raie, voire une rosette, peut-être, mais encore.
Une raie plombier, voilà, franchement. Rosette.
Merci pour votre euphémisme, Lulu.
Il y a des bagarres.
Une rosette, donc.
C'est d'une discrétion absolue. Non, en réalité, le film est, pour l'avoir vu, est un vrai choc, puisque c'est une... Parce que je vous ai dit, grosso modo, l'histoire très, très schématisée, mais... L'histoire de ce personnage est assez terrible, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, c'est tiré de la vie d'un type qui a vraiment existé, qui est mort en 2005. Non, d'ailleurs, que je dis une bêtise, qui est mort. Est-ce que c'est pas lui qui est mort en 2005 d'ailleurs ? Lui doit être encore un petit peu vivant.
Un petit peu vivant.
C'est plutôt celui qui a fait.
Être très frais,
c'est
mais.
Plutôt la personne qui a eu. Comment dirais-je.
Il a bien bossé son sujet. Hein.
Dont les morceaux ont été utilisés pour la bande originale du film. En revanche, l'histoire est assez terrible, puisqu'en fait, ce fameux Jesco White a vécu en Virginie-Occidentale. Dans les Appalaches. Et dans les Appalaches, en Virginie-Occidentale, quand t'as 8 ans et que t'as rien d'autre à faire, bah, tu sniffes de l'essence, tu sniffes de la glu, tu te shootes.
Ou tu fais des claquettes.
Vers 10-11 ans, tu te shootes à l'héros, tu te crames le cerveau complètement. Et tu te crames à ce point le cerveau.
En fait,
que
c'est
tu...
un Billy Elliot américain.
Voilà. Et tu te crames tellement le cerveau. Tu te crames tellement le cerveau à ce moment-là.
Et bon,
que tu es envoyé, que tu es... Mais vous noterez que jamais je ne laisserai.
Vas-y Ludo, bats-toi.
Que disons que le gamin donc est complètement cramé. Son père est un danseur de claquettes célèbre. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais j'essaierai de vous convaincre.
Je pense qu'il faut voir le film. Ouais.
Et je pense qu'il faut vraiment voir le film. Et donc, ce personnage-là va donc être enfermé dans une maison de correction. Et il va être enfermé dans cette maison de correction. Il va revenir. Son père va lui apprendre les claquettes. Puis, il va être à nouveau, séduit par ses démons. Il va être enfermé cette fois dans un asile psychiatrique où il va voir des fous qui mangent leur merde.
Ah, c'est gay.
Entre autres choses.
Ah, et c'est là en fait, qu'on voit l'arrêt ou pas?
Non, c'est ça.
Par contre, tu vois les fous qui se régalent. Et je peux te dire, ça vaut le coup d'œil. Et puis, il est relâché.
Ah, c'est très bon, caca.
Et il est relâché. Et son père est assassiné.
Ah oui, ah, alors là...
Une belle vie de merde.
Du coup, il va
DJ
vouloir...
DJ White
alors,
est assassiné.
Est-ce que je peux deviner la fin? Du coup, il veut faire un super
show. Faut pas la raconter, la fin.
Pas du tout.
En mémoire de son père.
Absolument
et il
pas.
Va... exploser le plancher grâce à ses claquettes.
Absolument
en
pas.
Ligne, des carrés.
Absolument pas. C'est à ce moment-là qu'il va trouver un peu sa voix, puisque en mémoire de son père, il va se mettre vraiment aux claquettes alors qu'il avait été en perdition totale, et il va se mettre à danser. Le problème qu'il a, ce jeune homme, c'est qu'il a quand même le cerveau un peu cramé et qu'il a accès à des excès de violence incontrôlés.
Ah, mais du coup, il fait des meurtres.
Et que donc, en fait, si tu veux, il a une vie extrêmement difficile et il est bipolaire, en fait, donc il part vraiment dans des délires complets. Et il va rencontrer sur son chemin, il va rencontrer l'amour. Et l'amour, c'est une vieille qui est jouée par Carrie Fisher.
Ah,
et dans un rôle qui est assez incroyable, puisqu'elle est complètement blonde décolorée. Et en fait, c'est vraiment un voyage quasiment, j'irais jusqu'au bout de l'enfer, parce qu'en fait, il va l'emmener dans son trip. Et il va croiser la route des deux types qui ont tué son père. Et donc, il va vouloir se venger, il va être complètement animé par ce désir de vengeance. Et le film part dans une espèce d'escalade totale dans la violence, mais la violence physique, mais également la violence psychologique.
Pourtant, ça commençait bien.
C'est hyper violent. C'est très très dur. Et il faut vraiment. C'est un peu dans la lignée de, même si les moyens ne sont pas les mêmes, c'est dans la glauquerie de Requiem for a Dream un petit peu.
Ah ouais, d'accord.
Puisqu'en fait, le film. Alors là, la référence
le film,
est quand
le
même.
Le film est décrit comme un voyage dans la tête d'un individu, puisqu'en fait, ce gars-là, tu as plusieurs scènes dans le film où tu ne sais pas si. C'est la réalité, s'il imagine ce qui se passe, ou s'il est dans du délire complet.
Ouais. Donc mais voilà. C'est vrai que ça donne envie de. On rigole, mais ça donne envie de.
Alors, la bande son participe de l'univers complètement déjanté qui est décrit dans le film, puisqu'elle est la musique est jouée par un fou furieux qui s'appelle Hazel Atkins, qui est en fait le père.
C'est du quoi
punk,
son prénom?
Hazel, H-A-Z-I-L, Atkins, qui est le père du punk. Et qui est l'ancêtre, enfin, qui est le premier à avoir en fait créé. Alors, ce type-là se disait, voilà, il écoutait des musiques comme Johnny Cash, etc. Et Elvis Presley, il se disait, mais pour faire ce genre de son-là, le mec, il est tout seul pour faire ça. Alors en fait, il s'est mis à se dire, il se dit, je vais jouer la musique, tout ça, je vais le faire tout seul. Donc c'est un type qui se produisait en jouant de la batterie, de la guitare, du machin. Qui parlait, ses textes parlaient de poulet, de décapitation, de un peu tout. Et en fait, il
normal,
est porté au nu ce gala par des artistes comme les Cramps, comme Marilyn Manson, qui en font une de leurs références en termes de musique. Et je peux vous faire écouter peut-être, je ne sais pas si c'est possible d'écouter un petit début pour vous montrer un petit peu. Alors je vous préviens,
Est-ce que tu l'as en téléchargement légal ce film?
Hazel Atkins, tu peux le
paiement,
trouver.
Je viens, Ludo, tiens, tu me passes ton.
Je ne sais plus.
Faire écouter ta musique, tout simplement. Ah,
si j'arrive à le retrouver.
J'aimerais bien effectivement le voir, ce film.
Oui, bah, je peux te le passer sans problème. Je fais écouter comment c'est, voilà, c'est Hazel Atkins, No More Hot Dogs.
No More Hot Dogs.
Le deuxième morceau. Vous allez voir, c'est très particulier. Mais moi, ça va vous donner un petit peu une impression. Je vous dis, c'est un film vraiment très très dur. Enfin, c'est quand même assez. Faut avoir le cœur bien accroché. Hein.
Ouais.
Je crois bien pour regarder ce film-là.
D'où l'interdiction
moins de 16 ans, qui est tout à fait justifiée.
Alors, attendez, parce que là, il y a juste un petit peu de pub, puisque c'est.
Et, le film aussi, en fait, en permanence entre une espèce de réalité complètement crue qui se passe en fait dans le milieu white trash, c'est-à-dire les bouseux du fin fond des Appalaches. Et donc, le film te décrit tout cet univers-là. Alors d'aucuns diraient que vraiment c'est une complaisance peut-être dans le fin fond, si tu veux, quasiment de la bassesse humaine, hein, dans certaines situations. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une vraie force. Et l'acteur juste crève l'écran dans son délire. Est-ce que tu es arrivé à trouver le
devant Nico qui se bat avec l'iPad?
Et donc voilà. Et donc.
Ça, c'est la bande originale.
Voilà. Tu as donc des morceaux, donc c'est très très rockabilly, rockabilly, country.
Avec un début quand même, mine de rien, de
psychobilly. Ouais. Voilà.
On est dans cet univers un peu moderne quand même, où tu sens qu'il y a...
On est très 50s quand même, hein, très 50s, ouais, mais...
Moderne, c'est que tu sens des bases de musique qui vont sortir dans les années 70, quoi.
Tu entends le rire ?
Ah oui, c'est moderne,
c'est un peu précurseur. Voilà.
Ouais, t'as, moderne tu... d'avant. Voilà.
Mais là, il dit ah 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 ah, il fait pas fa 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 fa.
On est dans son genre. Tu as des scènes de pur délire où effectivement là le et tu as la musique derrière et t'es embarqué une espèce de trip comme ça complètement.
Mais en fait, la musique colle bien au film, en fait.
Carrément. Même ça, même à côté, des fois même quasiment malsain, en fait, dans les images et la musique avec.
C'est un côté Tarantino, non ? Un côté un poil Tarantino ou pas ?
Et tu le prends comment ? Oui, c'est comme un cinéma bis ou.
Alors le film a coûté 2 millions de dollars, en fait, donc il a pas coûté cher du tout.
Quand même.
Mais c'est.
Là, il date de quand,
c'est ça ? Petit budget, 2009.
Ah oui, donc c'est pas cher.
Très petit budget par rapport à ce que.
Enfin, c'est pas cher.
Par rapport à la norme. Par contre, c'est très bien exploité. Alors l'image est très particulière parce que tu vois que le film a pas coûté cher, mais le film a des couleurs très désaturées, très monochromes.
Et c'est vrai que j'imagine bien des scènes très très hard là-dessus, voilà. Dans la musique, ouais.
Dans un espèce de délire. Alors, je le recommande pas à tout le monde, mais pour ceux qui ont envie de voir un cinéma un peu différent, bah ça vaut le coup de jeter un œil dessus. Voilà, c'était mon mot du jour.
Écoute, merci.
Ça donne envie, oui. Effectivement.
Merci Ludo.
Alors, on était tous dubitatifs quand même au début. Hein, c'est l'intervention.
Je trouve que tu as un très bon compteur parce que en nous parlant
on
de
est parti,
le mec qui va faire des claquettes, je m'attendais pas.
Voilà. C'est passé en crescendo là, direct.
Au début, c'était particulièrement chiant et puis en fait, finalement, ça donne vachement envie de le voir.
Il y a quelque chose qui me chiffre. Vous voyez.
Et ton deuxième sujet que tu voulais évoquer.
Ce sera assez rapide, en fait.
Parce qu'il y en a un autre.
Non, mais ce sera pour le coup assez rapide, puisque c'est juste pour célébrer la professionnalisation d'une revue, déjà depuis quelques numéros, depuis deux, trois numéros, puisque c'est le troisième. Une revue qui s'appelle Metaluna, qui est en fait une revue, j'appelle ça une revue un peu transgenre.
Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire, puisque revue qui a été créée donc par Jean-Pierre Puter, qui est donc le fondateur. Voilà, Jean-Pierre Puter, qui pourtant est le fondateur, le père fondateur de Man Movies.
Man Movies.
Je m'appelle Jean-Pierre Puter.
Jean-Pierre Puter et Rurik Salé, qui était donc un des collaborateurs de Man Movies, nouvelle formule.
C'est un peu érotique, non ?
Mais ça peut.
La page de couverture mettait à confusion quand même. Metaluna, quand même.
Alors, en fait, le principe était le suivant. Jean-Pierre Puter et Rux Salé se sont mis ensemble pour créer un magazine, une revue, qui traite de cinéma bis, de cinéma de genre, de musique, de tout un tas de choses. Alors effectivement, oui, tu as tout un tas de cinoches. Ça peut être le western italien des années 60, ça peut être le dernier film d'horreur qui est sorti, ça peut être une rétrospective sur Rob Zombie, et ça peut être le film porno des années 70 via une actrice en particulier. Bref, ça va parler également de métal. Ça peut te parler de
voilà. Nom, oui.
Ça va peut-être être un sujet sur John Carpenter. Tu as différentes choses, c'est vrai, ça mélange différentes choses. Et voilà, c'est juste intéressant parce que je trouve qu'il brasse différents sujets.
C'est assez intéressant. Pour l'avoir lu il n'y a pas longtemps, oui.
Ben oui, je trouve que le
ça donne envie d'en savoir plus, quoi.
Ça vient de sortir, donc.
Alors, la revue existe déjà depuis. En fait, il a commencé comme fanzine au départ, en fait, non professionnel, pendant 5-6 numéros trimestriels, je voudrais pas dire d'annerie, où il traitait surtout du film de films des années 60-70, où Jean-Pierre Puter était tout seul à ce moment-là. Et quand ils ont lancé la série professionnelle, c'était il y a 3 numéros, donc c'est sorti en début d'année 2013. Voilà. Donc voilà, je peux citer quelques sujets évoqués dans la revue. Ça parle entre l'illustrateur de Iron Maiden dans les années 80, Derek Riggs.
D'ailleurs, c'est très intéressant cet article-là. Voilà. Sur la relation du mec qui a créé le personnage d'Iron Maiden et la relation avec le groupe.
Exactement. Eddie,
qui sont plutôt tendus, quoi.
Tu parles du squelette ?
Oui, le
truc est absolument.
Dis donc, Ludo, je vois un peu de sein là sur la couverture.
Tout à fait.
Et
bien,
il n'y en a pas qu'un peu dedans.
Et pas qu'un peu, puisque tu as un sujet sur Tori Welles. Donc, Tori Welles qui était donc une actrice X qui a fait les belles heures du cinéma porno américain à une certaine époque. je reconnais que je ne suis pas le plus à même de parler de ça. Moi,
non, mais par
c'est
contre,
plutôt le, c'est l'amateur yougoslave. Mais...
par contre, là, l'article est assez intéressant parce qu'effectivement, tu vois l'envers du décor, la nana qui est tombée au 36e sous-sol.
Exactement.
Pour revenir un petit peu, avoir une vie maintenant un peu normale.
Elle n'est plus actrice, en fait. Ils reviennent sur sa carrière. Et effectivement,
tu veux dire qu'elle a touché le fond.
Les vis.
Il y a quelqu'un qui l'a fait, en tout cas.
Non, mais c'est intéressant. Tu as tout un article intéressant, par exemple, sur Sergio Zolima, qui est un réalisateur assez engagé, un réalisateur italien de gauche, très engagé.
Et, le rebelle.
Qui tournait des western spaghetti, mais qui avait un vrai fond social et avec des choses vraiment intéressantes. Donc, voilà. Donc, il se qualifie de Max Sinocrenroll. Voilà. Bon, mais ça parle de voilà. Moi, j'invite tout le monde. Il y avait d'ailleurs un sujet sur Anvil. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Bref,
pour une culture un peu alternative.
Ouais, voilà. C'est culture alternative, c'est vraiment le terme. Voilà pour ce qui me concerne.
Merci, monsieur Ludo. Lulu.
Très bon.
À Freddy maintenant.
Oui.
De quoi vas-tu nous parler?
Moi, je vais vous parler d'actu, qui est vraiment de l'actu pour le coup, puisqu'on va évoquer ensemble.
Bon, là, on est dans la culture, on est plus trop dans l'actu, mais c'est pas très.
Ah, c'est pour ça. Non, mais je suis complètement décalé. Bon, alors ça marche aussi, c'est un sujet culture. Je vais vous parler d'une auteure, puisque c'est une femme, c'est Dorothée Piatek. On a plutôt tendance à ranger ses livres en littérature jeunesse. Moi, je le conseille aussi aux adultes. Même peut-être l'idéal, c'est de le lire avec ses enfants. Je sais qu'elle propose ses livres beaucoup dans les écoles primaires, ça marche pas mal, les collèges aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui habite notre région puisqu'elle est rouennaise. Et si on parle d'actu quand même, c'est parce qu'elle ressort ses ouvrages aux éditions du Seuil, là à la rentrée de septembre. Je pense à L'Horizon Bleu par exemple, qui est un de ses classiques, qui est un très beau livre que je vous conseille à vous adultes de lire et pourquoi pas de lire aux enfants quand ils seront en âge de comprendre certaines choses.
C'est-à-dire.
Quel âge?
Il
n'y
a rien de
sexuel
qu'on parle.
Non, mais.
Non, à partir de quel âge on peut envisager genre de lecture?
4, 10 ou 15 ans.
Je ne sais pas le placer pour dire
à 15 ans,
ça,
mais je sais pas.
Je pense qu'à 8, 10 ans, peut-être, on peut comprendre. Par exemple, L'Horizon Bleu, c'est l'histoire d'un instituteur qui part à la guerre. En laissant sa femme, et c'est la correspondance, c'est l'histoire de la correspondance qu'il entretient avec elle et avec les enfants de sa classe. C'est poignant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est simple et c'est très bien illustré aussi. Voilà, je conseille à tout le monde. L'actu, oui, je le disais, c'est que ça sort là, tous ces livres à Dorothée Piatek ressortent aux éditions du Seuil, ce qui est quand même pas rien. Et elle a aussi un projet, je pense qu'on va entendre parler d'elle dans les grands médias à la rentrée. On ne peut pas trop dévoiler encore parce que c'est quelque chose qui est assez secret.
Putain, il est dans le secret des dieux.
Elle avait écrit un livre qui s'appelait « Je marchais malgré moi dans les pas du diable » qui parlait des malgré nous. Je ne sais pas si vous connaissez les Alsaciens et les Mosellans qui avaient été engagés en 1939 dans l'armée allemande, malgré eux. Et c'est un sujet qui n'avait pas été vraiment développé ni dans les livres, ni au cinéma, ni... Voilà, on n'avait pas trop connaissance de cette histoire-là. Elle l'avait portée à la connaissance de tous en l'écrivant. Et là, elle va écrire encore quelque chose qui va bouleverser un petit peu tout le monde. Je sais qu'elle a déjà été contactée par Laurent Ruquier, par exemple, pour une émission à la rentrée. Voilà, notez bien ce nom, Dorothée Piatek. On va bientôt en entendre parler.
Peut-être même à ce micro, un de ces quatre.
Qui sait? Et pourquoi pas?
Ce sera intéressant. Parce que si c'est quelqu'un du coin que tu connais, hein?
Pourquoi pas,
la petite ville que vous connaissez peut-être, il s'appelle le Petit Quevilly.
On connaît pas, non?
On connaît vaguement.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Truc de pécor, ça.
Voilà, c'était bref, mais c'était pour vous signaler.
Bah, c'était très intéressant.
La réédition de tous ces ouvrages qui sont à lire par les petits et par les moins petits.
Quel âge a-t-elle?
C'est une bonne intéressé question, je dirais.
Elle écoute, oui.
Alors, si elle écoute, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir, mais je dirais. Entre 45 et... Ouais, plutôt 45-50.
D'accord, c'est avoir une idée de... Voilà. Elle a écrit combien de bouquins, en fait?
Si on regarde sur son site, tu dirais une quinzaine.
Ah oui.
Ah, quand même.
Effectivement.
Ouais.
Mais écoute, si t'as les liens, tu me les...
Je mets ça sur le...
Et puis on les mettra sur les illustration pour le billet, quoi. Pour les gens qui peuvent être intéressés par ces œuvres, de Dorothée Piatek. Enfin, je parle pas dans le micro, il paraît.
Il paraît.
Eh bien, C'est terminé pour la rubrique culture. C'est Freddy qui va garder la parole puisqu'il va nous lancer sur un quiz actu.
Alors, c'est un quiz spécial été. Ça ne vous a pas échappé. Il fait beau, il fait chaud.
L'été sera chaud, l'été sera chaud.
Alors, si je peux mettre, il y a deux choses que j'adore l'été.
Dans les t-shirts,
dans les maillots.
Il y a deux choses que j'adore l'été, c'est les quiz de l'été et c'est les tests psychologiques de Marie-Claire de l'été. C'est mes deux choses que je préfère dans l'été.
Eh bien, figure-toi que j'ai tout mixé pour faire un quiz psychologique.
Mon rêve était trop beau.
Marius. Je chante bien, Marius.
Alors, si vous êtes prêts, on peut peut-être faire la première
question. Oui, absolument.
Fais péter le quiz.
Il faut lever la main ou on peut y aller direct?
Ouais, le mieux, c'est
le mieux, c'est lever la main.
C'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, on cherche quelque chose, quelqu'un, vous allez vite comprendre. Alors, c'est quelque chose qui a vu le jour en 1976, fruit de l'imagination du publicitaire Daniel Robert.
Le Club Méditerranée.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non.
La mer de Daniel
Robert. Vivant de Michelin.
Non, là, je viens de dire que c'était un quiz de l'été. Hein.
Ah, de l'été.
Bon
ah. Bah, le Club Méditerranée.
Le String.
Bah, la mer de Nier, Bikini, ça se tient.
Certes. Non, ce n'est ni le Club Med, ni le String.
C'est quoi, c'est de la pub hein.
C'est pas vraiment de la pub. Non.
Ah, c'est un concept?
Oui, on peut dire que c'est un concept. Et on en parle chaque année, chaque été.
Ça plaît, ça.
Bison futé.
Bison futé.
Oh, ouais, bravo!
Ouais, je suis
trop forte.
Alors,
créé à l'initiative du ministère des Transports. Suite à. Alors, je peux même vous dire la date, c'est en 76, je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en 75, on avait noté 600 km de bouchons entre Paris et le Pays Basque.
Oh, vache.
Oh la vache.
Ça c'est très bon.
Et c'est plus possible quoi, il fallait créer.
Ah, oui.
Non, c'est plus possible.
Non. Futé qui a réduit l'année d'après, en 76, donc, le trafic de 30% grâce à ce système qui fonctionne encore aujourd'hui sous la même forme.
Et maintenant, qui s'exporte hors de l'été.
C'est comme génial.
Aussi en vacances,
oui, même pour les week-ends.
À Pâques, des choses. Maintenant, non, mais c'est vrai, c'est même les week-ends un peu dangereux.
Les longs week-ends. On s'en dort de l'été. Les zones scolaires.
Enfin, 600 km de bouchons, c'est comme génial.
Ça a pris de prof.
Là, 600 bornes, c'est la moitié de la France.
Les fonctionnaires, ils ne devraient pas exister.
C'est génial.
On y va pour la deuxième.
La deuxième, allons-y, soyons fous.
Soyez attentifs, les quatre prochaines questions sont des records de juillet. Alors, on en a compté moins 5,7%. En juillet 2013, par rapport à juillet 2012.
Le nombre de morts sur la route.
Absolument.
Bravo. Bravo. L'unique tout.
Ça demande une petite explication. Pourquoi si vite? Pourquoi?
Parce qu'en fait.
T'as regardé mon calepin?
Pas du tout. Oh le tricheur!
Absolument pas. Parce qu'en fait, c'est un voyeur.
Non, absolument pas, du tout, du tout. Je suis juste passionné par le nombre de morts sur la route. Et c'est quelque chose qui, voilà. Qui m'anime. Donc je fais
moi, j'étais à, moi j'étais à moins 5,77, mais bon 5,70 ça va très bien.
Il se trouve
bien.
Tout simplement que j'en avais entendu parler de cette statistique
à cause des voitures banalisées qu'on a mis sur l'autoroute.
Il s'agit même d'ailleurs je crois même du nombre de morts historiquement le plus bas depuis 1948 ou 46.
Alors là c'est très fort, je pense que tu as forcément regardé mon calepin.
Je n'ai pas regardé ton calepin.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Par contre il est possible que nous ayons lu le même communiqué de presse en fait.
Ça baisse.
Peut-être bien. Effectivement c'est le chiffre le plus faible depuis
48 ou 46. 48. Alors tu vois j'avais un
date des premières statistiques.
Et ben
mais je n'ai pas lu ton calepin.
Félicitations Lulu hein.
Bah on sait pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas la seule info.
Bah déjà, moi, je suis tombé en panne.
Par contre, c'est pas en Haute-Normandie que ça se passe le mieux, hein, quand tu vois les chiffres en ce moment.
En Bretagne.
Il y a une baisse de la mortalité, donc record, cette année. Mais on note aussi une hausse des accidents corporels par rapport à l'an dernier. Il faut savoir qu'il y a eu 5434 accidents. Une hausse du nombre de blessés et une hausse du nombre d'hospitalisations.
Donc en fait, les gens sont peut-être tout simplement plus résistants.
C'est parce qu'en fait...
Ça, c'est une analyse commune, c'est parfait.
On est en train de faire une génération de mutants. C'est peut-être ça.
C'est parce que cette statistique, elle est bonne pour les accidents de voiture. Au contraire, chez les motards, c'est l'inverse.
Absolument.
Ouais, les motards payent un tribut très, très cher.
Et je crois qu'en Haute-Normandie, c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu le 63e accident de l'été.
Ah oui. Avec à chaque fois quasiment un mort ou quelqu'un de grièvement blessé.
En motard, tu parles.
Enfin, le plus grave en Normandie, ça a quand même été le pont Mathilde, hein, si je puis me permettre.
Il n'y a pas eu de mort.
Il n'y a pas eu de mort.
Il
n'y
a pas eu de mort, mais par contre, il y a ça excite pas mal de gens depuis.
En fait, il y aura des morts.
Oui, c'est ça.
On passe à la troisième question.
Oui. Allons-y, soyons fous.
Alors, on est toujours un record de juillet. On en a compté cette année 527 496.
Les impacts de foudre. Oh là,
vous êtes... Ils sont balèzes ici.
Et ça, c'est mon domaine, c'est pour ça.
Oui. Putain, mais les mecs, là,
ce que j'ai pas pu, ce que j'ai fait nous jouer.
Non, mais Nico, t'es petit, c'est tout.
C'est surtout que je suis jeune, voilà.
Non, vous avez pas remarqué qu'en fait, on est autour d'une table et qu'on se fait front. Et là, il y a une team contre une autre. Là, notre team est quand même.
Les vieux contre les jeunes, c'est tout. Non, c'est pas grave. Hein. C'est désolé, Mario, c'est dans les jeunes. Mais
on peut écouter l'explication de Freddy.
Je le savais, c'était les éclairs, mais il l'a dit avant moi.
Un pacte de foudre, c'est pas un éclair.
Pareil. Alors,
alors Christophe, ça s'explique comment?
Ah, les météorologues ne l'expliquent pas, a priori.
Alors, il y a des pistes quand même. Il faut savoir qu'on a eu un temps très froid jusqu'en juin.
Oui.
Qu'on n'a pas eu d'orage.
Mais ça, c'est le principe de l'orage.
Et il faut savoir aussi que c'est le deuxième mois le plus foudroyé de ces 9 dernières années,
c'est ça.
Après 2006, où là on avait compté plus de 750 000 impacts de foudre.
À ce propos, t'as vu Christophe la vidéo que j'ai mise il n'y a pas longtemps avec le train au Japon
à Tokyo
qui se fait
foudroyer.
C'est impressionnant en fait.
Un train.
Mais bon, il y a eu une cage de Faraday autour, donc personne n'a été blessé,
mais ça reste
quand même. Toujours, ouais,
les moteurs ont dû être touchés. Ou...
Je
suis le Faraday.
Moi, c'est très perso, mais il y a 3 semaines, j'ai vu la foudre tomber sur une éolienne juste à côté de ma voiture sur l'autoroute.
Ah, mais ça, c'est trop perso, quoi.
Ouais, je vais pas développer.
Ça. On a la foudre qui est tombée sur la maison l'année dernière. Sérieusement, qui a cramé tout ce qu'il y avait qui existait.
Oui, ça, c'est perso.
Mais ça, c'est très perso.
Alors, ça,
aussi.
Pour le coup, c'est très perso.
Voilà.
On passe à la quatrième question.
Oui.
Ah, à celle-là, je suis sûr que vous n'allez pas répondre tout de suite.
Ah ouais,
ouais.
Alors là,
le teasing.
En juillet 2013, donc cette année, une ville française a vu 63% de soleil en plus que la normale.
Chassagne-Montrachet.
276 heures d'ensoleillement en juillet contre 169 pour une année normale.
Ah, déjà, c'est pas mal.
On parle de quelle ville là?
On parle de Lille.
Non.
Lille, non, il fait beau.
Dunkerque.
Ah, je vais le prendre un petit coup, je vous laisse.
Maubeuge.
Alors, attends, on va faire.
Saumine, Herne.
On peut trouver en suivant une certaine logique.
Est-ce que c'est une ville de Bretagne?
Est-ce que c'est en France?
C'est une ville de Bretagne. France, mais...
C'est une ville de Bretagne, c'est bien ce qu'il semble.
Douarnenez.
Douarnenez.
Non.
Douarnenez.
Douarnenez.
Doigt dans le nez.
Régacel, non?
Non.
Plougastel. Lorient.
Non.
Quiberon.
C'est une ville connue?
Brest,
c'est ça.
Ouais. Ah bah tu vois, c'était pas si long.
La première ville que j'avais en tête en plus,
c'est un petit peu moi qui l'ai dit en premier, mais pourquoi?
Et pourquoi? Parce que
qu'il a fait beau cette année.
Ah c'est tout.
Il fait pas si beau habituellement, voilà. Quand il fait beau, il fait très beau à Brest.
Et donc t'as soif quand même ou pas?
Ouais, mais non, du coup j'ai pas le temps d'aller me chercher. Donc je répète un petit peu les chiffres, 276 heures de soleil pour Brest cette année contre 169 pour une année normale.
Ah, quand même.
C'est la teuf à Brest.
Il n'y a pas une chanson qui a été faite sur ce sujet-là, 276
heures.
Je suis à Brest et qui fait beau, je suis à Brest et qui fait beau.
C'est Miossec.
Nolwenn Leroy a repris la chanson de Miossec qui s'appelle Tonnerre de Brest. Et il en a fait une... Alors, ça fait tonnerre de Brest. Mais oui, voilà. Après, il y a une chanson
c'est bien quand
qui s'appelle
chantes,
Brest.
Ça donne envie.
Mais non, ça fait tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse.
Alors, Christine cherche un, Didou cherche un groupe.
Non, pas du tout.
S'il y a un groupe sur Rouen, tu
non,
dois accepter.
Non.
Ce podcast peut être l'occasion.
Ça serait vraiment très sympa.
Non, vous m'avez. Non, vous voulez sous-entendre que je ne pouvais pas vous chanter. Chanson.
Je cherchais une chanteuse à chier.
Elle reprend Nolwenn Leroy. Qui elle-même reprend Miossec.
Bah, vous voyez, voilà,
c'est une repreneuse de repreneuse.
Moi, je veux bien prendre.
Oui, j'ai une dernière question là, si vous
voulez.
Ah, bah, on veut, oui, bien sûr qu'on veut, Freddy.
C'est un nouveau record de juillet. En juillet 2013, on en comptait 68 569.
Des méduses.
Non.
Dommage.
J'ai essayé.
Peut-être que je vais aller chercher maintenant.
68 569. Des coups de soleil, non, je pense.
Non, ça fait pas beaucoup.
Je
fait.
Répète le chiffre, 68 569.
Des naturistes.
Non.
Ça se passe en France.
Ça se passe en France, oui.
Mais sur une région ou sur l'ensemble de la France?
Sur l'ensemble du territoire.
Ça sert à rien de chuchoter, on vous entend.
Est-ce que c'est un homme ou une femme?
C'est les deux.
C'est les deux.
Merci.
Des 68.
Des noms de ceux qui ne sont pas partis en vacances.
Ah non.
Non, à mon avis, il y en a malheureusement plus que ça.
Ouais. Ah bah ça va, la France est un pays riche, mais quand même.
Été.
Non, là, curieux, des questions.
68 000.
C'est pas une sorte d'animaux, il n'y a pas des animaux là-dedans?
Non.
Non.
Il n'y a pas d'animaux, non. Il n'y a pas de rosette, rien du tout.
Il n'y a pas de rosette, pas de gaufrette.
On est dans de la prévention ou on est dans un...
Ah, pour le coup, non, on n'est pas vraiment dans la prévention.
Est-ce que c'est lié à la consommation de quelque chose?
Pas forcément.
Non.
Excès de vitesse, contravention? Est-ce qu'on est
non.
De... Non. Ah, est-ce qu'il s'agit des gendarmes mobilisés sur les routes de France?
Non, non.
Ça a un rapport avec un rapport?
Un corps de métier?
Non plus.
Donc là, on est dans... du français lambda.
Est-ce que c'est une activité purement estivale?
Absolument pas.
Non. Pas du
nombre
tout.
De bières.
Il se trouve qu'on a.
Ça se trouve
noté
en juillet, mais,
en
ça,
juillet,
rien à voir.
Mais ça n'a rien à voir.
Ah, déjà, tu nous aides pas.
Ah oui, c'est pas facile ton histoire. Quand tu dis. Tu redis donc, c'est
68 000.
68 000 quoi en fait? C'est toute la question.
Oui, iPhone vendu.
68 569.
Est-ce que c'est une unité?
D'hommes et de femmes, hein, on a dit.
D'hommes et de femmes.
D'hommes et de femmes.
Donc ils ont fait un smartphone, non? Non.
Non.
Qui ont eu des retraites points?
Alors, il aurait fallu en retirer beaucoup et pas seulement, alors.
Tu m'aides pas du tout.
Tu n'as pas entendu ça dans les...
Non, de vacanciers, peut-être, qui font des petites bêtises, non?
Est-ce que c'est une sanction? Est-ce que c'est quelque chose de...
C'est une sanction.
C'est une sanction, 68 000 qu'on fait une sanction.
Ah, excès de vitesse.
Non.
Non, des gens qui peut-être sont en vélo et qui font des bêtises en vélo.
Non.
C'est un rapport avec un véhicule ou pas?
Non.
Non.
Des gens qui sont des trottinettes et qui font des bêtises en
pas de véhicule.
Pas de véhicule.
Je pense pas qu'on va jusque là.
D'accord. Pas de véhicule. Est-ce que c'est le fait de marcher dans la rue dans une tenue particulière?
Non.
Du tout.
C'est pas les naturistes quoi.
Ah, est-ce qu'il ne s'agit pas de gens qui nagent et qui se font choper en train de nager dans les zones interdites de baignade et qui meurent noyés?
Alors il y a un mot qui est bon dans ce que tu as dit. Les gens qui se font choper.
Okay. C'est déjà pas mal. Je fais avancer le débat.
De l'amour sur la plage.
Non.
Les fraudeurs dans le.
Oh, ça m'aurait plu ça.
On tourne autour là, vous dites des mots qui ressemblent
à plage, c'est ça.
Non.
Les fraudeurs.
Fraudeurs chopés. Des gens
juillet.
Fraude à la
qui n'ont pas payé leur location.
Est-ce qu'il s'agit d'une activité? Est-ce que ce pourquoi ils se font choper?
Ce n'est pas une activité. Déjà.
Pardon. D'accord. C'est pas une activité. Mais par contre, est-ce que c'est lié à un côté saisonnier en fait? Ou est-ce que pas du tout ça pourrait arriver n'importe quand dans l'année?
Ça arrive tout le temps.
Ça arrive tout le temps.
On en trouve tout le temps.
On en trouve tout le temps. Des gens qui ont trouvé des cèpes.
Non.
Des gens qui se sont fait gauler par Adopi il y a pas longtemps.
Alors peut-être.
Ah,
peut-être qu'on en arrivera là.
Peut-être qu'on en arrivera là. Donc
ah, de téléchargement illégal.
Non, mais alors
toi, tu t'es fait gauler ou pas?
Ah non.
Tu connais des gens qui se sont fait gauler?
Non.
On en arrivera peut-être là.
C'est une bonne question.
Y a-t-il du monde à cette table qui s'est fait gauler par Adopi?
Il y a des gens qui connaissent.
T'as reçu un truc par Adopi?
Non, non, pas Adopi, mais de manière générale.
C'est un truc comme ça?
Ouais. Enfin, c'est plus vaste que ça, évidemment.
C'est un téléchargement, un nombre de
gens. Ah, des gens qui se sont fait gauler avec leur portable au volant.
Non, non, c'est pas un point précis comme ça, c'est beaucoup plus vaste.
Pris dans Google Maps ou pris dans Prism.
En France, ils sont 68 569.
C'est les gens c'est pas les gens qui ont été espionnés par Prism.
Qui ont trompé leur femme ou leur conjoint, non?
Non, non.
Ah la vache. Autant les premiers étaient faciles, mais là.
Est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que les policiers jouent ou pas du tout?
Absolument.
Alors ils n'ont pas payé leur amende.
Alors peut-être que certains n'ont pas payé leurs amendes, c'est ce pourquoi peut-être ils se trouvent là.
Ils sont dans un fichier.
Certainement.
Donc s'ils sont peut-être dans un
fichier... Ah, qui n'ont plus de permis de conduire.
Non.
Non, on a dit que ça n'avait pas de rapport avec les véhicules.
Non, non.
Ah merde, j'ai pas entendu ça.
Ah non.
Ils se sont pris un courrier, ces gens-là?
Oh, ça va même au-delà de ça, oui.
Et ça va au-delà de ça, et donc ils ont été inquiétés alors?
Sont plus qu'inquiétés.
Ils sont allés devant les tribunaux.
Oui.
Ce sont des gens qui sont en prison.
Absolument.
C'est la population des prisonniers en France au mois de juillet. On a atteint un seuil au niveau de la population.
Le nombre de personnes incarcérées en juillet.
Combien t'as dit? 68 000.
569.
Eh ben, non.
Bravo c'est Ludo, énorme. C'est la bonne réponse. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont 68 569 pour 57 320 places.
Ah bah écoute,
punaise. Donc ça veut dire qu'on les libère,
en même temps,
d'où les révoltes,
moi je dirais, ça crée des liens. Ça crée des liens, ça crée de l'intimité et ça permet de favoriser les amitiés. Enfin, je veux dire.
Exactement.
Et ce qui est inquiétant, c'est que ce chiffre ne cesse de monter puisqu'il était déjà, le record était déjà en juin, puis il est passé.
Tu sais quoi ? Vivement que la gauche passe au pouvoir pour régler le problème.
Voilà. Bravo Ludo, en tout cas, c'était la bonne réponse à cette dernière question.
Ah, t'es trop fort, Ludo. Eh
ben, merci, comme ça. Monsieur Freddy, parce que ce quiz était.
Ah, j'adore, ouais. Moi,
je dirais qu'il
était
crescendo et c'était vraiment sympathique.
Bien.
Et heureusement que la dernière était difficile, sinon je.
Le changement, c'est maintenant.
Je passais pour un nulos.
T'es tombé sur deux cadors, là, en tout cas, au moins.
Ouais, j'ai pas le mérite à le communiquer de presse.
Ou deux tricheurs. J'en ai trouvé une dans trois cadors, t'es gentil.
Ou deux tricheurs, voilà.
Précisons que le communiqué de presse, je l'ai lu sur mon lieu de travail. Puisque c'est en partie lié.
Monsieur branle rien.
Voilà,
d'accord.
C'est ça. Il a du temps à tuer, donc.
Donc il rentre à 23h.
Je rappelle que je suis gendarme.
Je suis officier de la police nationale.
Ah, c'est une troupée.
Gardien de la paix avant tout.
Voilà.
Eh bien,
voilà.
Merci Freddy. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique 1 minute chrono. Donc maintenant, nous sommes à la rubrique 60 secondes chrono où chacun de nos chroniqueurs va présenter ses coups de cœur, ses coups de gueule en 60 secondes, pas une de plus. Donc pour commencer, Christophe va nous présenter, on va voir de quoi il nous parle. C'est parti.
Alors moi, je voudrais vous parler du retour tant attendu de la série Breaking Bad, dernière saison, en fait, dernière demi-saison. Puisque la saison a été coupée en deux. J'attendais cette dernière saison avec impatience, parce qu'elle va clôturer l'entièreté de la saison. Il y a le chrono qui fait un peu de bruit, je trouve, mais bon. Et donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir voir la suite des aventures de Walter White, dit Heisenberg. Et vraiment, le premier épisode n'est absolument pas décevant. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais je pense que la suite promet beaucoup, beaucoup de surprises, parce que rentrer ainsi dans une saison avec autant de suspense, c'est vraiment une série très, très forte.
Ça, c'est fait.
Merde. Et voilà, ma minute est consommée.
Merci, Christophe. Je partage, voilà, c'est ta vie. C'est quelque chose.
J'ai hâte de partager le vôtre aussi.
Franchement,
c'est de la vie.
Il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans cette série.
Voilà. Ah, j'adore cette série.
Alors, si tu veux, tu peux lui dire de fermer sa gueule. À un moment, tu vas voir ta minute chrono. C'est une possibilité que tu as.
Et donc là, maintenant, puisque Christophe a fini et que Didouille est en attente et que le chronomètre humain est en attente aussi. Donc, attention, c'est parti.
Alors moi, c'est et à la fois un coup de cœur et un coup de gueule, parce que la dernière fois que je me suis rendue dans un sex shop, c'était pour m'entendre dire que les sextoys genre canard, c'était has-been. Mais non, mesdames, ce n'est pas has-been. Alors si les mecs, vous voulez vous éclater autant que nous les nanas avec les canards, moi, je vous conseille la lecture. Mais non, mais pas physique. Je ne vous demande pas de vous amuser avec le canard physiquement, quoique vous pouvez nous procurer énormément de plaisir avec le canard. Ce n'est pas seulement un objet pour nous les femmes. Sachez néanmoins que il est sorti un livre qui s'appelle, enfin un livre, une BD qui s'appelle Confession d'un canard sextoy, et l'auteur est Émilie Chantilly, et absolument génial cette BD. En fait, vous allez enfin savoir ce que pense le canard sur ce qu'on lui fait endurer, et je vous assure que vous allez vous marrer, et c'est autant pour les mecs que pour les filles à lire, absolument.
Bien.
Eh ben merci Didou.
Juste. Et alors là, ça n'a rien à voir avec ma minute. Un petit clin d'œil spécial pour Nanette et son petit canard diablotin.
Moi, un jour, je voudrais qu'on me fasse un cours sur l'utilisation du canard.
Peut-être ta voisine, je pense qu'il va.
Non, c'est... Alors, moi, ce que je m'engage à faire.
Tu t'engages à rien du tout d'abord.
Ce que je m'engage à faire, c'est à la limite, vous faire.
Comment ça marche?
Un petit laïus sur un canard sextoy lors d'un prochain épisode.
D'accord. Avec une démo. Hein.
Pourquoi pas? Bon, bah, allons-y, soyons fous. Monsieur Lulu. Monsieur Lulu, êtes-vous oui. prêt?
Alors moi, on va mettre de la musique un petit peu parce que mon
attention. Attends.
C'est parti. Et voilà, donc comme je disais, on va mettre un peu de musique sur ma minute puisqu'il
c'est
s'agit...
pas du tout le morceau que je devais lancer, donc on recommence. C'est parti.
Donc voilà, moi on va mettre un petit peu de musique sur mes 60 secondes chrono puisque je vais parler donc de mon coup de cœur qui concerne un artiste lyonnais qui a son projet, artiste lyonnais qui s'appelle Nod, N-O-H-D. Derrière Nod se cache Arnaud de Goutte, donc un musicien très talentueux qui a notamment joué dans un groupe précédemment dans la scène locale, c'était Stan. Et donc il vient de se mettre sur Facebook, il a déjà posté quelques morceaux sur Facebook. Et son concept, c'est surtout des morceaux, c'est assez électro-rock, et c'est des principalement, on va appeler ça, des paysages sonores électro-rock, où c'est essentiellement à travers la musique qu'il fait donc passer tout un tas d'histoires et tout un imaginaire très 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 puissant et très sympa. Je vous invite à aller sur Facebook le découvrir très vite.
Eh bien, merci Ludo pour. Pour
réussi,
Nod,
réussi, donc, challenge réussi.
Je trouve ça, moi aussi, enfin, j'aime principalement ce morceau Useless Hero. Voilà.
Très sympa.
À Freddy. Donc Freddy qui va en 60 secondes nous présenter son coup de cœur ou son coup de gueule. Nous allons voir.
Eh bien, moi, c'est plutôt un coup de cœur. J'aurais sûrement pas assez de 60 secondes pour vous dire tout le bien que j'ai pensé de l'autobiographie de Jean Sarus. Là, j'ai lu cet été. Jean Sarus, ça parle peut-être pas à tout le monde. Jean Sarus, c'est Jean dans Les Charlots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les Bidas en folie, le Grand Bazar, la Grande Java, les fous du stade, pour certains, toute leur jeunesse. Et j'ai dévoré ce bouquin qui s'appelle Définitivement Charlot, qui est la reprise d'une autobiographie qu'il avait déjà sortie, mais qu'il a enrichie depuis. Alors, c'est bourré d'anecdotes, des choses très très drôles. Je prends 10 secondes pour en raconter une. Il va manger habituellement chez sa mère le dimanche. Et cette fois, il ne peut pas, tout simplement parce que les problèmes, le groupe avant les Charlots, joue en première partie des Stones qui viennent à Paris. Et il ne va pas voir sa mère. Et il dit mais maman, je ne pouvais pas venir, j'étais avec Mick Jagger. Et elle lui dit mais je m'en fiche, en plus, je ne connais pas ce copain-là.
Voilà. C'était parfait. Pile dans les temps, monsieur Freddy. Ben en tout cas, ouais, non, mais je ne connaissais pas particulièrement Jean Sarus. Et ben ça donne envie, en fait, hein, franchement.
Très drôle. Très, très drôle.
Ouais. Et maintenant, à Starlet de nous parler de son coup de cœur. Alors, le temps que je lance le son. Prête, madame. Attends, hop. C'est parti.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est plutôt le coup de cœur de l'année pour moi, parce que ça parle c'est un clip en fait de Algie, le clip du morceau Breeze Blocks. C'est un petit court métrage assez perturbant. On y voit tout au début une femme morte dans une baignoire avec un parpaing là maintenant sous l'eau. Un parpaing, c'est Breeze Blocks en anglais. Et s'ensuit un retour en arrière, en fait un rebobinage des événements. Et on assiste alors à une violente dispute et on se demande en fait ce qui s'est passé en fait avant cette fin. Et c'est un clip assez troublant, fascinant, qui m'a complètement obsédée pendant des semaines. Je l'ai vu et vraiment ça m'a bouleversée. Breeze Blocks s'inspire du livre Max et les Maxi Monstres de Maurice Sendak, qui parle des sentiments violents d'un amour à sens unique. Et vraiment, je vous invite à regarder le clip dans le vrai sens pour voir vraiment ce qui s'est passé.
C'est fini.
Ah, merde.
C'est fini. Mais on mettra le clip sur le billet parce qu'effectivement.
Justement parce que t'as pas fini, j'ai envie d'aller voir.
Ah oui.
Et le reste de l'album de Alt-J est très très réussi.
Je suis d'accord.
Mais ce morceau-là, c'est une.
Mais le clip est vraiment assez obsédant. Ouais, voilà, ouais. C'est le mot. Ouais. C'est bien joué. Enfin bref.
C'est Motus. Maman Motus.
qui a tiré... Mironton alors... par Jabul.
Merde, qui a tiré la boule noire.
Donc, le dernier à parler, c'est donc moi, Nico.
Non.
Eh oui, c'est moi, je suis désolé. Bref. Donc, je vais partir.
Bah non, reste.
Bah reste, non.
mon coup de cœur.
Et la régie.
Mon coup de cœur, ça concerne, je dirais, l'ensemble du site le Daily Mars, que je consulte tous les jours et que j'aime partager particulièrement régulièrement sur mon blog ou plein de choses. Et particulièrement, je dirais, le dernier billet que j'ai lu, enfin que Ludo a lu aussi également, avec Olivier, donc plus connu sous son pseudo In The Blix, qui avait écrit un petit billet sur sa première expérience en allant voir Shrek avec sa fille. Il y a là, de ça une dizaine d'années en période estivale. Pour avoir vécu ça il y a à peine 24 heures avec mes deux enfants, ce billet m'a vraiment beaucoup parlé, puisqu'on a vraiment passé un excellent moment avec nos deux loulous. On est allé voir Monstre Academy, même si c'est pas toujours très simple avec des enfants en bas âge, mais le plaisir de passer un moment avec des enfants, voilà, je vous conseille de lire le billet. Voilà, j'ai été coupé.
Mais c'est vrai. Alors, que c'est super. Monstre Academy, c'est super.
Ah oui, toi, hein, on est allé te voir, c'était vraiment bien.
Moi, j'ai aimé aussi.
Il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez ?
Et donc voilà la dernière rubrique de cet épisode qui s'appelle la minute intelligente. On n'a pas encore trouvé forcément de nom. L'instant pour s'endormir moins bête, voilà. Enfin c'est voilà. Même si c'est déjà quelque chose qui existe, mais voilà. L'idée c'est de partager une idée de culture générale et d'expliquer un petit peu son. Il y en a une qui se marre. Je dis peut-être des conneries. Mais...
C'est surtout la culture générale, s'il te plaît.
Bah oui, c'est de la culture générale. Et d'expliquer un petit peu l'étymologie et l'origine d'une expression.
Ah.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'est-ce que je voulais dire. Et donc voilà. Donc je vais laisser la parole.
Moi, je veux bien commencer.
À Monsieur Lulu. Oui, qui va nous expliquer un petit peu, qui va introduire quelque chose.
Ouais, j'aime beaucoup la minute intelligente, ça permet de vulgariser, de faire œuvre de vulgarisation scientifique, parfois, c'est intéressant. Donc moi, ma question pour les auditeurs et pour les gens sur cette table, c'est pourquoi les mammouths ont-ils disparu de la Terre, en fait ?
Les supermarchés ?
Les mammouths,
en même temps, c'est pas faux, ils ont disparu, les mammouths. Hein,
pourquoi les mammouths ont-ils disparu de la Terre, le savez-vous ?
La théorie voudrait dire qu'il y a des météorites qui les ont éteints.
Non, ça, c'est les dinosaures.
Mais c'est la même chose.
Ah bah non, ouais, les dinosaures, ils n'ont pas croisé les mammouths.
Si ça continue comme ça, moi je te dis tout de suite, Nico, je quitte cette table.
Parce que tout le monde sait que les mammouths, ça vivait pas à l'époque des dinosaures.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ça doit être une histoire d'époque glaciaire ou
quelque
chose comme ça,
de
non?
Oui, en fait, pas tout à fait. En fait, s'il n'y a plus de mammouths sur Terre, c'est parce qu'il n'y a plus de papoutes.
Ok.
C'est pour ça que culture générale, je suis pété derrière.
Je me sens gêné de pas l'avoir trouvé celle-là.
Ça me rappelle, tu sais quoi, on ramasse les papayes
avec une
papouche. Ben, hey, on apprend plein de choses quand même. Dans cet instant.
Donc on n'aura pas la véritable explication scientifique.
C'est la véritable explication scientifique. Il n'y a pas d'autre explication.
Nous ne voyons pas d'autre explication.
C'est cela.
Merde, tu fais un truc.
Donc alors moi, je voulais revenir sur une expression.
Vas-y,
qui
Marius.
Dit « la nuit porte conseil », c'est vrai.
Ah bon ?
Ça, c'est vrai.
Ah oui, il faut dire. Ah bon ?
Ouais, parce que l'autre jour, je me suis couché et puis en fait, quand je me suis réveillé moins con. Donc...
Alors ça, j'ai des doutes, mais...
Attends, Marius, c'est sûrement une explication scientifique. Allez,
explique-nous.
C'est ça.
Allez, explique-nous. Comment... Pour l'instant, on a une explication scientifique.
Quelle est
de
la différence entre te sentir moins con et ce que t'étais con avant?
Il n'y a pas des masses, c'est clair. Non, mais je pense que la nuit, oui, la nuit porte conseil, oui.
Ah, mais... D'accord. Ouais, tu peux développer ou ça va s'arrêter
c'est
là
juste un avis,
vous pouvez développer, moi j'arrête là.
Non, mais merde.
Ah, ouais. Mais je suis d'accord.
Ok.
J'ai pas d'argument là, mais j'en suis convaincu. Bref.
Je pense que je me suis réveillé quelques fois moins con que j'étais la veille.
Ah, tu devais partir de loin alors.
Mais ça te fait ça tous les soirs ou comment ça se passe?
Ça devait être une...
Est-ce que c'est quelque chose de récurrent?
Est-ce que c'était pas une nuit polaire qui dure 6 mois?
Est-ce qu'il y a des moments où tu as des hauts puis après des bas? Est-ce que je veux dire, ça t'arrive des fois que hop, ça redescend le... Enfin, je veux dire, ton...
Non, il y a des fois je me couche très con et je me réveille très con aussi.
Mais ta réserve de conneries, elle baisse. Enfin, comment ça se passe?
Et tu peux te réveiller encore plus con que la veille ou pas?
Ça va t'arriver aussi, ouais. Comme quoi, tu vas dans un sens ou dans l'autre.
Ok.
Et c'est quoi la marque de ton fréquence-mètre de conneries?
C'est important parce que il faut que les gens sachent ce qu'il faut pas acheter.
Bah ouais, c'est important.
Non, j'ai pas fait encore de statistiques assez prononcées, mais d'accord, c'est vrai que d'accord. Ça marche dans les deux sens. Bon,
mais il y a rien de scientifique jusque-là.
Mais c'est
rien de scientifique. Eh ben, écoute, peut-être que Starlet va nous apporter une petite chose scientifique.
Alors moi, je voudrais vous demander si vous savez pourquoi on se dit merde pour se souhaiter bonne chance.
Oui, moi je le sais, mais je vais laisser les autres.
Merci Christophe.
Ouais, c'est ça, moi aussi je sais.
Eh bien, moi je ne le sais pas, mais je vais laisser les autres.
Est-ce que
moi je vais m'endormir ce soir avec cette idée et je vous le dirai demain.
Starlet, est-ce que c'est un lien avec le. Quand on marche dans la merde avec le pied droit par exemple?
Pas du tout.
Non. C'est pas pour conjurer le sort?
Non.
Redis le début là.
Pourquoi est-ce qu'on se dit merde pour se souhaiter bonne chance?
C'est un rapport avec le théâtre.
Exact, ça y est, je sais.
Oui, ça y est, je me souviens également, mais je te laisserai le dire. Mais je m'en souviens.
J'ai l'impression un peu d'être aux grosses têtes quand même. Je ne vous cache pas.
C'est une histoire évidemment d'un temps où il n'y avait pas de voiture, je suppose.
Absolument.
Est-ce qu'il y a un peu de gros teint de cheval?
Absolument.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de théâtre plus ou moins rempli?
C'est ça.
Mais vous vous êtes renseigné.
Mais je brûle la patience, dites-nous.
Starlet, on t'écoute.
Alors en fait, à l'époque, ça portait malheur de se souhaiter bonne chance. Mmh. Et
c'est un peu pour conjurer le sort, non? C'est un peu ce
que
je dis.
Non, parce que ça n'a aucun rapport.
Okay, d'accord. Je m'en vais.
Donc on a choisi.
Si ça continue comme ça.
On a choisi le mot merde. Enfin, je dis on, mais je me sens pas concernée en fait. Ça date de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant les théâtres. Halte durant laquelle les chevaux en profitaient pour se soulager et garnissaient la rue de crottins. Cette garniture étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que de souhaiter beaucoup de merde aux artistes.
Ah, c'est pas bête.
C'est
quelque chose qui me chiffre.
Et donc, Marius, je pense que demain, tu pourras dire « La nuit m'a porté conseil, je suis moins con qu'hier. »
Si tu t'en souviens.
Complètement.
Je pense qu'on en est tous convaincus.
Merci.
Et
bravo.
Juste pendant que je suis dans le truc du théâtre, est-ce que vous savez pourquoi le vert porte malheur au théâtre?
Ah non.
Le vert?
La couleur?
Oui.
La couleur verte ou le vert à boire?
Moi, j'y suis, mais je ne sais plus.
Je ne sais pas.
Est-ce que c'est parce que les artistes mangeaient trop d'épinards et qu'évidemment, plus ils se sentaient avoir mangé d'épinards, au moment de monter sur scène,
on va revenir à la merde.
Pas loin, mais non, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est un lien avec le crottin de cheval?
Absolument pas.
Avec les épinards?
Non.
Il y a un aliment qui est mort.
En fait, il est super loin, c'était juste pour l'encourager à chercher.
Il n'y a pas un type qui est mort dans un costume vert?
Si. Mais pour une raison particulière.
Aucun lien avec la Henken qui se.
Aucun lien.
Qui s'accumule sur la table.
On l'a pris peut-être qu'il y avait une pièce de Noël, il était déguisé en sapin, puis il y en a un qui s'est dit qu'elle est. Non.
C'est un costume vert, c'est ça?
Oui.
Et il est mort avec?
Oui.
C'est Robin des Bois qui est tombé d'un arbre?
Non.
C'était l'aime.
C'était
une pièce.
C'était l'aime.
C'est ça. Non. Ils l'ont lynché sur place, le pauvre.
Ah, c'est français, c'est à l'époque de Molière, par exemple?
Alors je saurais plus dire quelle pièce.
Ah oui, bah alors si on sait pas.
Alors là, je sais à moitié les choses.
Alors je s'accroche même pas ces sujets.
J'ai mal recopié sur Wikipédia.
Elle a trois feuilles qu'elle a imprimées, voilà.
Heureusement.
Ah, c'est bon.
Ça va, c'est je bon.
Bon, bah, je le dirai pas.
Ah non, on veut le savoir.
Alors, ouais. Non,
allez, vas-y.
Est-ce que ça a un rapport avec le côté jardin et côté...
Non. Non.
Ça a un rapport avec le cyanure.
Alors, en fait, toi, t'arrêtes de lire mes feuilles.
Ça a un rapport avec Hulk.
Alors, en fait, à l'époque, on obtenait la couleur verte grâce au cyanure.
Ah.
Et les acteurs qui transpiraient énormément finissaient par s'imbiber de cyanure.
Oula.
Et il y en a quelques-uns qui en seraient morts.
D'accord.
Donc on ne porte plus le vert dans une pièce de théâtre.
Alors que le rouge, on peut.
En fait, le rouge, c'est un peu la cochenille.
Ah, c'est un peu la cochenille pour la déco.
D'accord.
Enfin, voilà. Franchement, ça fait super froid dans le dos, quoi.
Non, mais un pull.
Rouge.
Eh bien, merci.
Non, mais un pull au vert.
Au vert.
Eh ben, par contre, je vois pas le rapport avec la cochenille, en fait. Pourquoi la cochenille?
Tu sauras demain matin, Marius.
Voilà. La cochenille, c'est ce que tu utilises pour comme non, colorant dans les bonbons. Non, mais bien sûr.
Mais arrête,
bien
la cochenille est en train de nous niquer tous mes tuyas.
La cochenille, c'est un insecte qui minuscule et rouge.
Qui me nique mes tuyas.
Non, tu confonds peut-être avec...
Avec l'autre.
Voilà.
Tu confonds avec l'autre.
Avec la chenille, non, mais pas la coche.
La cochenille est un insecte qui est en train de me ravager mes tuyas. Voilà, je voulais au moins lancer un appel.
Un appel à qui?
Au cochenille. Laissez mes tuyas.
Tu l'avais ton coup de gueule.
Ouais,
bah voilà, mais merde.
C'est cochenille, ouais, c'est clair.
Et donc, dernier sujet, je dirais culture générale. Savez-vous pourquoi trinque-t-on?
Parce que c'est
oui.
bon.
Parce que c'est bon. Ok, on fait chin-chin, etc.
Moi je sais.
Alors,
parce qu'on aime bien les gens.
C'était pas une preuve de confiance à l'époque?
Exactement.
Il y avait beaucoup d'empoisonnement, des choses comme ça.
Ouais.
Exactement.
Alors, racontez,
en fait.
Parce que je ne sais pas. Moi.
Mais l'explication, elle est pas nette.
En fait, ça
on
date.
On faisait passer le liquide dans le verre de l'eau.
Voilà. Et voilà, ça fait partie. C'est date du XVIe siècle où, en fait, boire avec son hôte était considéré comme étant très dangereux. Puisque on buvait avec quelqu'un qui pouvait vous valoir du mal, etc. Parce que pour une famille opposée, pour diverses raisons. Donc du coup, le fait de boire avec quelqu'un était un petit peu était très très dangereux. Donc le fait de trinquer pouvait entraîner un mélange des boissons.
Alors c'est là-dessus où il y a litige parce que.
Et du coup.
Ah, il te manque les autres.
Et du coup, l'idée, ça serait que les mélanges pouvaient se faire et que du coup, le fait de trinquer était un signe de confiance puisque le mélange des gouttes qui pouvaient passer d'un verre à l'autre pouvait engendrer le poison. Et quand on trinquait avec quelqu'un, c'est qu'on avait confiance en la personne avec laquelle on trinquait. Ah, voilà un petit peu l'idée.
Il y a des gens qui disent que c'est difficile en trinquant, même si c'était des chopes en bois à l'époque, donc on pouvait taper fort. C'était quand même relativement difficile de faire passer quelques gouttes d'un verre à un autre, rien qu'en les tapant l'un sur l'autre.
Oui. Alors c'est pour ça qu'il y a également
deuxième explication.
La tradition de se regarder dans les yeux pour en même temps qu'on trinque déceler la moindre inquiétude dans le regard de la personne avec laquelle on trinque. Et du coup, le fait de trinquer plus de regarder quelqu'un dans les yeux pouvait entraîner une certaine confiance pour pouvoir boire. Et c'est pour ça qu'on le fait comme un signe de chance, etc. Oui, Freddy.
Alors à ce propos, est-ce que vous savez pourquoi on ne dit pas chin-chin pardon, avec un japonais quand on trinque avec un japonais?
Parce que ça veut dire zizi.
Petit zizi.
Petit zizi en japonais.
Oui, tout à fait.
C'est comme chier qui veut dire pas chier, mais merci.
Mais en fait, ce n'est pas vraiment un signe de confiance, c'est plutôt un signe de méfiance.
C'était pour conjurer la méfiance.
Parce que justement, tu trinquais pas avec quelqu'un à qui tu n'avais pas confiance. Voilà, l'idée c'est que maintenant quand tu trinques avec quelqu'un, ça a un côté justement conjurer le sort un petit peu. Et que du coup, ce que j'ai pu lire, c'est qu'on ne boit pas à la santé, comme on dit santé. Voilà, on buvait à l'époque à la survie. En fait, c'est ça l'idée.
Ah ouais.
C'était de survivre, tout bêtement.
Ça va l'apéro à l'époque.
Ce qu'on voit comme un apéro. Voilà.
Ça posait un vrai problème. Par exemple, tu dis, les gens ils trinquaient. Par contre, ils se regardaient dans les yeux. Donc, pour les myopes, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est pour ça qu'Alain Flou a créé
le chin-chin. Du coup, exactement. Exactement. On retombe.
Quel rebond
du chin-chin. Franchement, je trouve ça magnifique.
La boucle
je trouve
bouclée.
Que y a la boucle est bouclée. Je dirais que la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'épisode.
Ah, juste, peux juste demander si vous savez ce que c'est que
tu veux dire bonjour à quelqu'un ?
Non, juste, est-ce que vous savez ce que c'est que du blanc de poulet ?
Du blanc de poulet.
Oui, c'est le côté du poulet.
Non, je ne sais pas, ça sent le piège.
C'est la chair du poulet, quoi.
Mais j'imagine que c'est pas la bonne.
C'est le kiki du gendarme, le blanc de poulet ?
Pas loin.
Vas-y, on attend la chute.
Bah, c'est du sperme de flic.
Bah, bravo. Wow. Hey, je trouve qu'on finit sur une...
sans passer de
on va peut-être le couper au montage.
On finit
ça,
sur une note poétique. Je vérifierai.
Oh, ça va.
Je vais voir.
Tu parles d'un canard sextoy, je peux parler du blanc de poulet.
Il reste
la fin.
Oh, on se quitte déjà.
En
fait,
déjà,
ça va super vite.
Hein?
À 8 heures d'émission.
C'est un truc de dingue. Eh bien, une petite tartine au fromage après là, ça vous dit?
Oh,
allez,
là là,
soyons fous. Il reste pas un peu de pizza, la pizza froide?
Non, mais attends,
Marius, c'est tout mangé.
Non,
bon, okay.
Non, il reste un bout de saumon.
Eh ben,
on peut s'inviter au studio quand même.
En conclusion, déjà, je l'ai déjà dit au début, mais je voulais remercier Christophe pour tout ce qu'il a
oui,
fait en termes de
maquillage. Oui, alors on va l'applaudir. Limite, on peut faire peut-être un bambou
guignon.
Non, pitié.
Moi, je coupe le son de tout le monde.
Ah, ça, c'est vache.
En tout cas, je voulais remercier Christophe pour l'habillage sonore comme visuel du blog et de tout ce qui va avec l'Entrepode.
Bah, j'espère que ça plaira. Parce que...
Et très, très
puis,
fort.
Messieurs, dames, si ce ne sont pas des questions indiscrètes, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ou quoi que ce soit ? Christophe, es-tu quelque part
sur... À part sur Facebook, je suis nulle part.
Et nulle part.
Je suis nulle part.
Alors c'est facile, vous tapez Christophe sur Facebook.
Et vous le trouvez facilement.
Il y en a qu'un, c'est moi.
Quand on le connaît, on le retrouve facilement.
Avec un K.
Déjà, il aide. Monsieur Lulu.
Moi, je dis juste qu'on peut retrouver Kenkyu le 14 septembre avec Wisdom. Wisdom et un troisième groupe qui s'appelle Chaos Dream, donc au QG Traders au Havre. Et ça va rocker.
Ouais,
croyez-moi. Ça peut être sympa. On va se marrer. Didouille, te retrouve-t-on quelque part sur Internet ?
Non, pas sur Internet. Par contre, tous les jours, hors temps scolaire, à l'Isor.
Écoutez, si jamais vous passez à l'Isor, il y a peu de chance parce qu'il n'y a rien à faire là-bas. Mais bon, allez-y. Dis bonjour à Didouille.
Ou pas. Par contre, après, si on me demande, je peux créer quelque chose.
Ah donc, bon, écoutez, demandez, elle créera peut-être un truc, on ne sait pas. Freddy
On peut me retrouver sur Twitter, par exemple.
Par exemple.
Mon pseudo, c'est Freddy Lam, c'est mon prénom et mon nom, donc Freddy Lam, L-A-2-M-E, à la fin.
Ok,
attaché.
Très bien. Marius
Moi, j'ai un blog de photos, je fais de la photo de scène, donc Marius Photo de scène. Photo de scène tout attaché et puis on fleuve, tombe sur moi.
Est-ce que tu fais toujours des petites photos coquines de Camille Chabricot ou tu as arrêté ça?
Non, j'ai arrêté les Camille Chabricot, c'est trop
susceptible. Photo de scène, scène comme le fleuve ou scène comme
non,
la scène?
Scène comme la scène, photo de
comme
concert.
La scène de concert. Ok. Donc je mettrai les liens de toute façon le blog. Starlet, on te retrouve nulle part?
Pas personnellement, mais on a la page du groupe sur Facebook. Donc,
quel groupe, vas-y?
Kenkyu, Kenkyu.
Bon, t'as un peu un Twitter, mais tu veux pas le dire en fait.
Je regarde.
Non,
pas.
Son SharePost.
Ok,
non, je me suis inscrit, elle m'a dit non.
Et puis moi, aussi, je suis sur Twitter, Narguilé. Et puis j'ai un petit blog, voilà. Les fonds de tiroir.
Ah oui, il faut en parler quand même.
Un fond de tiroir.
Dis peu, un petit blog, attends, qui a quand même un bon paquet de.
J'invite
tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil.
Mais voilà, bref, merci les amis. Vous êtes vraiment des potes, vraiment. Et donc, voici comment se termine ce premier épisode de l'Entrepode. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on s'est bien marré. Et puis, on essaye de se retrouver d'ici un mois avec d'autres sujets du même acabit, un petit peu divers, un petit peu variés. Et puis. En espérant que ça vous plaise, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques comme pour l'épisode pilote et on essaiera d'en tenir compte et d'améliorer ou pas d'ailleurs. On continuera.
On essaiera d'avoir un invité aussi.
Et puis surtout, exactement comme dit Freddy, la prochaine fois, on essaiera d'avoir un invité. Donc, restez connectés. À plus.
Au revoir.
Salut.
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 Bye.